Cette séance nouvelle, meilleurs vœux tout d'abord, hein. Débutons un nouveau cycle, mais aussi une nouvelle année. Alors c'est le moment où Jeannette vous souhaitait une bonne année 2017, qui va pour nous commencer un peu sur les chapeaux de roue, parce que nous abordons un cycle nouveau de 5 séances, hein, comme d'habitude, dont le but va être de s'intéresser à l'art d'aujourd'hui. Il y a une ou deux années, je ne sais plus très bien, les temps vont vite, j'avais eu l'occasion de vous proposer, certains d'entre vous étaient là d'ailleurs, une série d'ateliers sur l'art moderne, hein, sur en gros le XXe siècle. Nous avions parcouru toute cette période-là. Il s'agit maintenant non plus du tout de s'intéresser à l'art moderne, mais à l'art tout à fait actuel, absolument contemporain, hein. Et bien entendu, nous n'allons pas épuiser le sujet en 5 séances. On va simplement faire une sorte d'approche à la fois historique et critique de, on va dire, 5 grands courants de l'art d'aujourd'hui à travers un certain nombre de grandes personnalités qui se distinguent dans ce domaine-là. Et je pense que ces séances, quelquefois, vont un peu, j'allais dire, nous bouleverser. Hein. Il ne s'agit pas... L'art d'aujourd'hui, après tout, c'est toujours un art un peu, surprenant, étonnant. Hein. Ça a toujours été ainsi. Hein. Quand on regarde l'histoire de l'art, on remarque que l'art en train de se faire a toujours surpris les gens, les a toujours, quelquefois d'ailleurs, fait se révolter, hein, entre... L'exemple bien connu des impressionnistes, hein, dont vous savez à quel point ils ont été vilipendés, hein, et les post-impressionnistes, on pense à Van Gogh, hein, qui, vous le savez, c'est devenu légendaire, on le sait, de son vivant, n'a pas vendu une œuvre, hein, et qui a été traîné dans la boue. Hein, mais quand on regarde comment des artistes aussi universels aujourd'hui que Michel-Ange ont été reçus, on voit bien que les artistes qui créent sont mal reçus par leur époque. Hein, c'est très, très souvent comme ça. Et notre époque ne déroge pas à la règle, hein, et donc, les œuvres que l'on va voir, quelquefois, vont peut-être un peu nous bouleverser aussi, mais c'est normal. Hein. L'art est fait pour ça, et les artistes ne sont pas là pour être dans une sorte de mainstream, comme on dit aujourd'hui, pour endormir la société, mais au contraire, pour l'appliquer un peu. Hein. C'est ça le but. Hein. L'art, il est là pour ça. Pas forcément pour endormir les consciences, mais aussi pour les faire travailler. La culture, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui a pour but, finalement, de nous faire travailler notre esprit. Alors, je vous repasse nos petites règles. Et puisque c'est le début de l'année, vous allez voir qu'il y a une petite innovation. Hein. Nous innovons en cette année 2017 avec ce cycle, parce que les règles sont toutes les mêmes, sauf une. Comme d'habitude, nous n'hésiterons pas à prendre la parole, mais sans la monopoliser. Nous aurons une sorte de méthodologie que nous cesserons de suivre. Nous n'utiliserons pas Internet. Et les grands connaisseurs qui savent tout, bah, je leur remercie de ne pas d'emblée dire ce qu'ils savent pour que les autres qui peut-être savent moins de choses puissent s'exprimer. C'est la troisième règle qui va changer un peu. Parce que là, je vous demanderai, après tout, on est du début de l'année, on parle de l'art d'aujourd'hui. Et j'allais dire, on a pris sur l'art d'aujourd'hui. Hein. Avoir pris sur Rembrandt ou Léonard de Vinci, c'est un peu difficile. Avoir pris sur l'art qui se fait, concernant des artistes qui sont toujours vivants, ça, c'est une chose possible. Alors, on va là se permettre quelques licences. On pourra avoir des commentaires subjectifs, des commentaires esthétiques, mais on n'oubliera jamais, par contre, d'avoir aussi une approche scientifique. En clair, on peut dire, hein, on va se le permettre dans cet atelier, je trouve que l'art d'aujourd'hui, justement, le permet, parce qu'on en est acteur de l'art d'aujourd'hui, on va pouvoir se permettre là de dire ben, « ça j'aime » ou « ça j'aime pas » ou « ça je trouve que c'est n'importe quoi » ou « ça vraiment c'est formidable, ça me plaît beaucoup ». Par contre, on n'oubliera jamais d'avoir une approche scientifique, hein. En clair, et pour n'importe quelle œuvre d'art, y compris la Joconde, hein, on peut dire « j'aime pas, mais je trouve ça intéressant » ou « j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est d'une portée secondaire ». Voilà. Hein. Donc, on pourra dans cet atelier avoir des avis subjectifs et esthétiques, ce qu'on s'interdit en règle générale, mais sans oublier, encore une fois, que nous sommes ici des historiens de l'art, et que le but est d'avoir une approche scientifique. Ok ? Les règles sont claires ? Bien. Alors, on va commencer aujourd'hui, et ça va être le premier chapitre, par regarder les œuvres de 5 artistes différents. J'ai choisi 5 artistes qu'on peut plus ou moins regrouper dans un courant assez cohérent. Et je vais vous montrer pour commencer une œuvre de chacun de ces 5 artistes. Et je voudrais qu'on les regarde, qu'on les décrive un peu, qu'on voit ce que c'est que ces œuvres techniquement, plastiquement, Et qu'après, on s'exprime un peu dessus, voir comment vous les ressentez d'abord, et aussi ce que, à votre avis, elles évoquent, ce qu'elles charrient, quel est leur message, pourrait-on dire. Hein. Donc on va commencer par là, on va regarder tranquillement, en se donnant du temps, 5 œuvres. Et ces 5 œuvres, on va les regarder techniquement, qu'est-ce que c'est, pratiquement, mais aussi, on va essayer ensuite de parler dessus pour dire ce qu'on en pense, mais également ce que, à notre avis, elles peuvent contenir. D'accord ? Et encore une fois, certaines œuvres vont peut-être un peu nous faire bouger. Bien. Prêt et prête ?
Prêt à tout.
Prêt à tout. Première. Sacré. Alors, la première œuvre que je vous propose, c'est celle-ci. D'abord, avant de regarder ce que ça représente et ce que l'on peut en penser, ce qu'on a à en dire, essayons de voir techniquement de quoi il s'agit. L'œuvre que vous voyez là, techniquement, elle est, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre sur le plan matériel, hein ? Qu'est-ce que c'est que l'œuvre que je vous montre là ? Une œuvre, une peinture, une œuvre réaliste, une peinture ? Non ? Une sculpture ? Sculpture ? Un mélange ?
Oui, un mélange de photographie.
Ah, une photographie, c'est possible aussi.
Oui, mais transformée.
Une photographie transformée, retouchée ?
Oui, voilà.
Il pourrait effectivement s'agir hein, de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire soit d'une peinture hyper réaliste, hein, soit d'une photographie, peut-être une photographie retouchée, soit d'une sculpture. Il y a plusieurs possibilités. Un trompe-l'œil, ce que vous voyez dans le fond, ou bien la croix.
C'est en vrai
relief. Alors, autrement dit, est-ce que ce que je vous montre là, c'est... Finalement, je crois qu'il y a 2 ou 3 possibilités. Soit c'est la photo d'une photo, soit c'est la photo d'une peinture, soit c'est la photo d'une sculpture. Voilà. Bien, je crois que je résume à peu près les 3 propositions que vous avez faites. Hein. Donc, soit c'est la photo d'une photo, une photo qui a été prise avec un acteur, je ne sais quoi, qui a posé, plouf, on a pris la photo, et la photo fait œuvre. Hein. Soit c'est une sculpture qui est photographiée, soit c'est une peinture hyper réaliste qui est photographiée. Alors, quelle solution à votre choix ? Vous avez proposé les 3, à vous de trancher.
Il n'y a pas d'ombre.
Il n'y a pas d'ombre. Donc ce serait plutôt une peinture.
Non.
Si en relief. Un montage. Un montage. Et quand vous dites un montage, ça veut dire quoi ?
Une photo.
Peut-être une photo découpée ou quelque chose comme ça ? Oui. Donc peut-être une photo découpée, alors. Cernée, quoi. Hein. Un collage ?
Une sculpture.
Vous pensez plutôt à une sculpture comme vous, hein ? Alors en fait, c'est ça. L'œuvre que vous avez ici, je vous dis la solution, hein, c'est une sculpture. C'est ce que vous avez là, c'est la photo d'une sculpture. Hein, donc, ce n'est pas la photo d'une photo. Hein. Peut-être qu'on en verra des photos de photos. Voilà, parce que la photo, c'est une œuvre aussi, depuis une Séphornie Epps. Hein. Bon. Ce que vous avez là est la photographie d'une sculpture. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas la photo d'une peinture, ce n'est pas la photo d'une photo, c'est bien la photo d'une sculpture. Cette sculpture que vous voyez là, est-ce que vous pourriez me dire en termes matériels, là, encore une fois, ce dont il s'agit d'abord, cette sculpture, quelle est, grosso modo, sa taille, à peu près, hein, quelle est également sa matière, en quoi c'est fait ? Qu'est-ce que vous auriez à dire pour ça ?
Résine.
Pardon ?
Résine.
Résine, oui. Que résine ?
Et puis,
oui, voilà, c'est ça. Hein, résine, il y a effectivement du textile, hein, des vêtements, hein, absolument. Okay. Bon, il y a peut-être également d'autres matériaux, mais on va pas, si on se dire, pinailler là-dessus. Au niveau de la taille, vous avez une idée ?
Grandeur nature.
Grandeur nature. Effectivement, c'est grandeur nature. Hein, ce que vous avez là, le personnage que vous avez là, est grandeur nature. Bien. Alors, maintenant que l'on sait techniquement de quoi il s'agit, maintenant que l'on a bien vu quelle était cette œuvre pratiquement, qu'est-ce qui est représenté? Qu'est-ce que vous y voyez?
Le christianisme écrasé.
Le christianisme écrasé. Avant peut-être de voir derrière le christianisme écrasé.
Mais c'est, Jean-Paul II.
Jean-Paul II.
Alors, ça voudrait être Jean-Paul II.
Voilà, c'est une œuvre qui présente effectivement Jean-Paul II, du moins la représentation de Jean-Paul II. Hein, bon, mm-hmm. Donc le pape. Hein, okay. Et qu'est-ce qui lui arrive?
Il tombe. Il est foudroyé par un.
Il a reçu. Voilà, il a reçu le météore. D'ailleurs, alors je ne l'ai pas là sur la photo, mais dans certaines présentations de cette œuvre, il y a carrément un peu devant le pape du verre cassé, hein, comme si une météorite avait traversé une verrière et était arrivée, tombée là, sur le pape qui passe.
Mais c'est pas le pape qui n'a pas les chaussures rouges.
Ah, alors est-ce que le pape a toujours les chaussures rouges? Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, dans les grandes cérémonies, c'est le cas. Bien. Donc on a là la représentation du pape, en l'occurrence de Jean-Paul II, qui vient de recevoir une météorite et qui a été terrassé par elle. Bien. Donc voilà pour, je dirais, l'œuvre telle qu'elle se présente elle-même. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez me parler de cette œuvre? C'est-à-dire que je voudrais d'abord que vous m'en disiez un peu ce que vous en pensez, comme ça, un peu à chaud. Hein, certains d'entre vous, peut-être, la connaissent, hein, d'autres la découvrent. J'aimerais donc un peu que vous me disiez, puisqu'on a le droit, on a le droit de se lâcher un peu. Hein, mais ce que je voudrais aussi, car nous sommes des historiens de l'art, alors on a le droit de se lâcher, mais on est des historiens et on n'est pas dans une subjectivité qui envahit tout. On est là, sérieusement, hein, pour voir aussi comment tout ça se place dans une chronologie qui est celle de l'histoire de l'art. Et au-delà des affects qu'on peut avoir par rapport à cette œuvre, qu'est-ce que, à votre avis, cette œuvre peut dire, peut essayer de faire passer comme idée? Qu'est-ce qu'il y a derrière la représentation?
Il n'est pas complètement tombé.
Il n'est pas complètement tombé.
Il est mal en point.
Il s'accroche.
Oui. Oui. À votre avis, enfin, moi je. Non, il n'est pas mort. Non,
non,
d'ailleurs, il se relève plus ou moins. Enfin, voilà. Il souffre, voilà. Je pense que ça fait un peu mal. Hein. On reçoit rarement des météorites, mais je pense que ça ne fait pas de bien. Donc, effectivement, il souffre. Hein. Donc, il y a une grimace, ferme les yeux. Il tient la croix, il s'accroche. Hein.
Il s'accroche ou alors il la maintient?
Oui, absolument. C'est peut-être l'un et l'autre. Oui.
Il est coincé par la barre en haut.
Pardon, il est.
Il est coincé par la barre en haut. Pourquoi cette barre?
Alors, en fait, c'est la boiserie qui est au fond de la pièce où se trouve l'œuvre.
Ouais.
Si vous voulez, l'œuvre est présentée, par exemple, là où je me trouve, hein, et derrière, on voit le mur. Donc, en fait, ce que vous avez là, c'est la base du mur, quoi. Et qui est mouluré, qui a un petit décor. Donc, c'est
pas... la fin de sa vie qu'on va se dire là.
Alors, on pourrait effectivement voir là une sorte de manière de représenter la fin de la vie du pape. Quoi.
Voilà. Mais météorite, quoi.
Ah, ça pourrait être une manière, comment dire, sublimée, poétique, de voir la vie du pape. Bon, ça c'est... Pourquoi pas?
Ça me fait penser un peu à la phrase de Père, pourquoi m'as-tu abandonné, avec tous les malheurs qui viennent du ciel, et s'y tombe, enfin, je sais pas.
C'est marrant ce que vous dites, c'est très juste ce que vous dites, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et effectivement, ça fait beaucoup penser à cette phrase, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi, hein. Ouais. Alors votre réflexion est intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais une météorite, c'est l'univers. L'idée de l'univers.
Oui, oui, oui.
Ça vient du ciel, quand même.
Oui, oui, c'est le ciel, c'est l'univers. Ouais.
C'est la religion qui chancelle.
Oui. Alors, peut-être aussi avec ce côté... Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'elle chancelle, oui, mais comme on l'a remarqué, il n'est pas mort. Il se relève et il s'accroche à la croix. Il souffre. Mais il n'est pas tombé, enfin voilà, il y a une sorte d'ambiguïté là aussi. Donc c'est un peu les deux, c'est la religion qui est touchée, et en même temps elle n'est pas complètement. En tout cas cette religion-là, il y en a quelques-unes, comme vous le savez, dans le monde.
Il y a quelque chose que je trouve curieux,
oui.
C'est pas bien réaliste. Donc on dirait que cette météorite est posée.
Oui.
Elle n'a pas frappé. On dirait qu'elle est venue après. Il y a quelque chose là.
Je suis d'accord avec vous. Je pense que si une météorite réellement tombait sur quelqu'un, ce serait un peu plus contondant. Oui, hein. Je suis d'accord avec vous. Donc je suis très d'accord. Il y a une dimension un peu abstraite finalement. Oui. Hein. On n'est pas là, même si c'est une sculpture quelque part très réaliste. Hein, oui. On n'est pas là dans quelque chose de si réaliste que ça. Hein.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis ça, c'est le.
C'est le ciel. C'est Dieu quelque part. Sorte, oui, voilà. Oui. Oui, oui. Donc il y a effectivement là-dedans.
Tout ce qui est maladie.
Oui. Il y a donc finalement là une dimension, en effet, dans cette sculpture qui, d'une certaine manière, peut être vue comme hyper réaliste. Hein, il y a cette météorite qui est posée là, mais presque doucement, hein, comme si on l'avait délicatement posée là. Quand on fait une vraie météorite qui tombe sur le sol, à mon avis, ça fait un petit creux quand même, hein, parce qu'elle vient de très loin avec une force assez importante. Voilà, donc il y a une dimension, on le disait un peu tout à l'heure, hein, peut-être un peu poétique, symbolique, plus que simplement réaliste. Hein. Vous en pensez quoi, donc je réitère ma question.
Ça fait
référence
ouais.
Un avertissement ou
un
signal.
Oui, un signal, un avertissement.
À quelle date ?
Ça fait référence la date. À un incident politico-religieux ?
Non.
Pas du tout.
Non. Alors, peut-être ça peut faire, on en parlait tout à l'heure, hein, peut-être ça peut être vu notamment comme une vocation de Jean-Paul II et de la maladie qui a été la sienne à la fin de sa vie, etc. Hein, et des difficultés et de la souffrance qu'il pouvait avoir. Hein. Mais par contre, ça ne fait pas référence à un événement précis, je ne sais pas, un accident qu'il y aurait eu, ou un... Voilà, hein.
Et c'était contemporain de l'existence
Je ne sais plus exactement quand est mort Jean-Paul II, mais enfin, on est... la personne qui a fait cette œuvre est tout à fait contemporaine de Jean-Paul II.
Et fait pendant la vie de Jean-Paul II.
Alors, encore une fois, je crois me rappeler de la date de cette œuvre. On va la voir tout à l'heure. Je ne sais plus quelle est la date de la mort de Jean-Paul II. Donc, vous le saurez tout à l'heure. Si vous vous rappelez de la date de la mort de Jean-Paul II, moi, je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas. Bon, en tout cas, on est proche. Hein.
Il rêve.
Pardon ?
Il rêve et il souffre. Et il y a à la fois la souffrance physique et la souffrance morale avec cette croix qui est... Mm-hmm.
Mais la croix reste intacte.
Mmh, absolument, oui. Oui,
la météorite n'a pas
pu s'y accrocher. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la croix est à la fois ce à quoi il s'accroche, mais ce qui le sauve. C'est avoir ce qui le sauve, et enfin, il sauve la croix et il est sauvé par elle, d'une certaine manière. Oui, hein. Il s'y accroche, et en même temps, il la sauve. Vous savez, comme sur dans les bagarres au Moyen-Âge ou après, d'ailleurs, on sauvait le drapeau, n'est-ce pas ? Alors, on était blessé, on avait une jambe en moins, on avait une flèche dans le ventre, etc. Mais on sauvait le drapeau. Hein. C'est un peu la même chose. Là, il sauve la croix. Hein. Il ne laisse pas tomber. Hein. Il y a une espèce de référence de Jean, d'une certaine manière. Ouais.
La trajectoire de la météorite n'est pas évidente.
Non.
Théoriquement, ça tombe verticalement et,
ouais.
Et enflammé à haute température.
Décidément, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Il y a un côté presque. On a l'impression que c'est une météorite très délicate hein, que l'on a placée. En ce sens, je trouve que c'est une sculpture qui peut beaucoup faire penser à la peinture ancienne. Hein. On pourrait montrer des tableaux du XVIIe siècle italien, par exemple, hein, où on voit comme ça des scènes qui représentent, je ne sais pas quoi, moi, Saint Paul sur le chemin de Damas ou autre, vous savez, qui tombe de cheval et qui sont comme ça, à la fois réalistes, mais en même temps tellement posées, recalculées, etc., qu'elles ont un côté faussement réaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme ce qu'on a là, hein, où cette météorite, décidément... Elle n'est pas crédible, si j'ose dire. Hein. Alors, c'est très réaliste, et en même temps, ça ne l'est pas. C'est réaliste et c'est abstrait en même temps. Hein. C'est réaliste, et pourtant, c'est symbolique. Hein. On le disait tout à l'heure.
Est-ce que ça vous dit du blanc et du noir et
surtout... Oui, et puis le rouge, surtout.
Oui. Alors, le rouge, évidemment, tout dépend de l'endroit où l'œuvre est mise en place. Hein. Là, c'est mis en place dans une salle où le sol est rouge, donc c'est rouge. Je pense que ça peut être mis en place dans des lieux où le sol peut être d'une couleur différente. Il est vrai que moi, bon, cette œuvre a été présentée dans un certain nombre de lieux, hein, et à chaque fois, je l'ai vue, j'en ai vu la reproduction, hein, sur un sol rouge. Donc le rouge est bienvenu, d'autant que le rouge et le pape, ça va pas mal ensemble. Hein. Mais vous disiez autre chose, je crois.
Est-ce que ça pourrait pas être une critique de la religion, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe dans le monde, voilà.
Oui, c'est un petit peu d'ailleurs ce que vous et d'autres disaient tout à l'heure. On peut aussi voir ça, hein, une sorte de religion qui chute. C'est une œuvre qui est d'aujourd'hui, mais qui n'est pas de cette année. Hein. C'est une œuvre qui a, si ma mémoire est bonne, on verra la date tout à l'heure, hein, une 10-15 d'années. Hein. Voilà. Hein, donc c'est pas une œuvre de tout de suite, mais c'est une œuvre qui fait partie de ce qu'on appelle l'art contemporain. Hein. C'est vraiment une œuvre, en gros, des deux décennies ou des 25 ans qui viennent de s'écouler. Quoi, hein. Toutes les questions très très brûlantes qu'on connaît depuis quelques années, notamment en Europe, autour des questions très très liées à la religion, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, n'étaient pas aussi vives peut-être à l'époque, mais elles commençaient déjà à venir. Mais vous savez, les artistes annoncent souvent des choses. Hein. Mm-hmm. C'est intéressant de voir que cette œuvre, on pourrait dire, oh, ben ça c'est vraiment une œuvre qui témoigne des questions touchant à la religion aujourd'hui, parce que Dieu sait qu'on en parle. Hein. Or, c'est une œuvre qui a, si ma mémoire est bonne, on va voir la date tout à l'heure, je devrais l'avoir en tête, mais c'est pas le cas. C'est une œuvre qui a, je crois, une petite vingtaine d'années. Hein. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment un artiste, il y a 20 ans, fait ça. Hein. Je trouve que c'est quand même. Les artistes sont un peu prémonitoires. Hein.
Est-ce que l'artiste croyant, c'est un artiste.
À votre avis?
Oui.
Oui. Ouais.
Non.
Non.
Oui, mais avec une part de doute.
Alors, vous allez le voir tout à l'heure, pas ici, mais vous allez en voir la photo de l'artiste, hein, et je vous en dirai quelques mots. Moi, je pense qu'il n'est pas croyant, mais pour des raisons que vous allez comprendre, il est quand même très très proche de cet univers. Vous comprendrez peut-être un peu plus. Je ne vais pas vous dire pourquoi, c'est un peu sibyllin ce que je dis, mais voilà. Moi, je pense que je pense, hein, vu le profil de l'artiste, que ce n'est pas un artiste croyant, mais je pense que pour des raisons que vous verrez, il est très très proche de ce monde auquel appartient cette iconographie.
Il est d'où ?
Ouais, polonais. Alors, en fait, elle appartient à une collection privée. Il y en a plusieurs exemplaires. Hein. C'est-à-dire une caractéristique de l'art d'aujourd'hui, du moins de ce type d'œuvre-là, c'est que ça peut exister à plusieurs exemplaires. Oh, pas 400, hein, mais quelques-uns. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 3 ou 4 exemplaires de cette pièce-là. Actuellement, même si je n'ai pas été voir l'exposition, je pense que cette pièce-là est peut-être... Enfin, un exemplaire est peut-être exposé à Paris, à l'hôtel de la Monnaie. Vous savez qu'il y a à l'hôtel de la Monnaie un lieu où on présente des expositions, des œuvres d'art contemporain. Cette œuvre y est peut-être actuellement.
Elle n'a jamais été dans une église.
À ma connaissance, non, mais pourquoi pas. Il y a des lieux artistiques qui sont installés dans des églises, donc peut-être. Bien. Bon, on a pas mal discuté autour de cette œuvre. Voilà, on va peut-être passer à la deuxième, mais à un deuxième artiste. Ça vous va ? Ok ? Allons-y.
On n'est
pas un nombre. C'est. Voilà, Michael Jackson. Mais alors, avant de voir ce que ça représente, même chose que tout à l'heure, hein, j'aimerais que l'on me dise. Techniquement, de quoi il s'agit, hein. C'est une sculpture. Oui, c'est précisément c'est la phase après le biscuit. C'est-à-dire le biscuit, c'est le départ. Après le biscuit, une fois qu'il est retravaillé, notamment au niveau de la couverte, ça devient ce qu'on appelle une porcelaine.
Oui.
Hein, c'est une porcelaine. La taille.
Non, c'est
la
grandeur nature.
Oui, c'est grandeur nature. Hein, grosso modo, c'est grandeur nature.
Alors, donc, difficulté technique.
Techniquement, c'est très coton. Hein.
Ah oui.
Alors, c'est peut-être pas tout à fait grandeur nature, mais c'est très grand. Alors, vous avez dit déjà ce que ça représentait, Michael Jackson. Hein. Donc, vous me rappelez peut-être qui c'est en deux mots ? Je vous demande pas de. Ah, mais il tenait à ne pas l'être, justement.
Un chanteur danseur.
Oui. Bon, on va dire une rock star du siècle dernier. Hein, bon. Mais il n'est pas tout seul.
Mais le singe.
Voilà, avec un singe. Pourquoi un singe ?
Il lui ressemble.
Parce qu'il adorait les
animaux. Il lui ressemble parce que...
Il adorait les africains.
Parce que, pardon ?
C'est d'origine
africaine. Ah, ouais, mais il y a une autre raison.
Il avait un singe.
Il avait un singe, absolument. Il avait un singe, il avait un zoo. Et ça, c'est son chimpanzé, hein, qui s'appelle Bubble. Et donc, Michael Jackson est représenté avec son chimpanzé Bubble. Voilà. Ah, bon. Alors, maintenant que nous savons de quoi il s'agit, une porcelaine près de grandeur nature qui représente Michael Jackson avec son chimpanzé Bubble, qu'est-ce que vous diriez de cette œuvre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Quel est le but d'une œuvre telle que celle-là ?
Mimétisme
mimétisme entre l'animal et le personnage, comme si le singe était un deuxième Michael Jackson.
Au niveau du visage.
Ouais. Visage un peu équivalent.
Le côté doré.
Ok. Le côté doré, qu'est-ce que... Pardon.
Le côté paillette.
Paillette clinquant. Le côté doré. Mais justement, ce côté doré, paillette clinquant, qu'est-ce qu'il vous dirait?
Ça le représente bien.
Voilà, hein, effectivement, ça le représente bien, c'est son univers. Hein. Et justement, cet univers, qu'est-ce qu'on nous en dit là ? Pardon ? L'idée du paraître, oui, ce côté bling-bling, hein, le paraître. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a au sol ?
Serein ? Oui. Oui, sur le sol, vous avez des petites fleurs. Oui.
C'est quand même un Américain,
c'est
plus loin.
C'est un Américain, oui. Ouais. Oui, pardon.
On a l'impression que c'est un couvercle de cercueil.
Ah, le dessus, l'espèce de... Alors, c'est pas le cas, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais c'est pas le cas. Hein. Je ne sais plus non plus si c'est la même question que tout à l'heure. Est-ce que ça a été fait du vivant de Michael Jackson ou pas ? Je ne sais plus. J'aurais tendance à dire oui. Bon, Jackson, il est mort il y a quelques années. Ça fait 25 ans, très longtemps. Hein. Et je pense que cette œuvre a été faite avant. Mais bon, je ne mettrai pas ma tête à couper. Hein.
Ces fleurs coupées, ça fait un peu vanité, non ?
Il y a toujours un peu cette idée de vanité, vous avez raison. Hein. Ouais.
Il cherchait à blanchir.
Oui, absolument. Vous savez, il se mettait des pommades pour être plus blanc, etc. Oui, ouais, donc il y avait une dimension. Ouais. Oui. Donc, et finalement, cette œuvre, elle voudrait dire quoi ? Quel est, votre avis, l'idée qu'il y a derrière ? Vous avez bien montré plein de choses, hein, le côté clinquant de cette œuvre.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la critique de la civilisation américaine, des loisirs et
Donc il y aurait une sorte de critique. Alors, d'ailleurs, dans le mot critique, il y a, comme vous le savez, le côté positif et négatif.
Oui, voilà,
donc effectivement, on aurait là une sorte de critique via Michael Jackson. Oui. D'une certaine société américaine, on va dire, hein, de la société américaine en quelque sorte. Hein.
Des artistes, parce qu'il n'y a pas qu'en Amérique.
Au moins du showbiz.
Des artistes du showbiz. Hein.
Du showbiz.
Il y a un côté très enfant, immature.
Très immature, très enfantin.
Oui, ce qu'il était. Hein.
Oui, ce qu'il était. Peut-être que la société américaine a cette dimension-là parfois. Je crois qu'on nous l'a montré récemment, dans certaines élections d'ailleurs. La société était très enfantine aux États-Unis, qu'elle était capable de croire au Père Noël. Les choses les plus grosses peuvent passer aux États-Unis.
C'est le singe qui regarde, c'est pas lui.
Oui. Oui. Absolument.
Mais. Le singe est très humain.
Pardon ?
Le singe est très humain.
Absolument. Ça nous rappelle quelque chose, ça ? Alors, vous rappelez les singeries qu'on a vues, hein. Le singe dans l'art, c'est pas un nouveau venu, hein. Le singe dans l'art, il a une histoire de plusieurs millénaires, hein. Et on a vu, rappelez-vous David Tenier par exemple, hein, comment le singe était une représentation de l'humain, hein. Et d'ailleurs, vous avez bien dit tout à l'heure, il y a une sorte de mimétisme entre le singe et le sujet, Michael Jackson. Hein. Vous avez dit aussi qu'il y avait une dimension enfantine, et donc c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a une dimension mignonne, c'est un jeune homme avec son singe, tout ça est très doux, très gentil, très charmant, très mignon. Et puis en même temps, le singe, c'est quand même, artistiquement parlant, la représentation de la bêtise humaine. Hein. Hein. Donc, voilà, on ne sait pas de quel côté ça penche, mais il y a un peu ça. Et tout ça dans un biscuit ou dans une porcelaine très, très clinquante, qui peut, en effet, surligner un peu une sorte de critique, avec des bons côtés ou des mauvais, hein, de la société américaine, hein, une société du paraître, vous le disiez tout à l'heure.
Il y a aussi le fait que ces traits ont été, sont européanisés, donc comme s'ils avaient renié ses origines.
Absolument, je pense que c'est une sculpture, s'il a vu, qui a pu lui faire plaisir, puisque c'est ce qu'il voulait, hein. Il avait une dimension comme ça, de vouloir gommer ses origines africaines, d'une certaine manière, hein. Il se faisait blanchir la peau, etc. Il y a un peu de ça là-dedans, effectivement.
Il s'était fait refaire le nez.
Absolument, tout à fait.
Ils sont habillés pareil, ils ont les mêmes vêtements.
Oui, absolument, absolument, tout à fait. Décidément, le mimétisme, il est profond. Hein.
Et la barbe du singe, on dirait que la correspond à la chevelure du... Non.
Oui, ce que Jackson a en haut, lui l'a en bas, en voilà. Quelque sorte. Oui. En tout cas, le mimétisme, vous avez raison, il va jusque dans le vêtement. Hein.
Même le singe n'a plus sa couleur naturelle.
Oui. Mais d'ailleurs, à vrai dire, rien n'a sa couleur naturelle. Hein, parce que cette porcelaine, elle est blanche et dorée, et ça, c'est vraiment pas naturel. C'est-à-dire que même, je veux bien que Michael Jackson il voulait être blanc, mais peut-être pas autant que ça, parce que là il est plus blanc que nous-mêmes. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment une dimension super blanc qui est, j'allais dire, un peu, enfin très caricaturale et très outrée. Hein. Bien, on continue notre petit regard.
Oui.
Troisième œuvre.
Oula, oh, oui. C'est en brillant, ça.
Pardon ?
C'est pas en brillant,
c'est pas... C'est en diamant.
En diamant.
Réel ?
Vrai.
Des vrais.
Des vrais.
Il y en a un paquet.
Il y en a un paquet. Alors, bon, pratiquement, là aussi, la matière, on vient de la dire. Pardon ?
Les vrais dents, quelle matière ?
Alors, j'étais sûr que vous me poseriez la question, j'ai oublié de regarder. Je ne sais pas en quoi sont les dents.
Vraisemblablement naturelles.
Je pense que c'est de l'ivoire, moi, mais je n'en suis pas certain. Hein. En fait, ça n'est pas un vrai crâne. C'est le moulage d'un crâne du XVIIe siècle. Et ou du 18e, j'ai vu les deux dates. Alors. Le moulage a été tiré en platine. Tiens, vous avez un crâne, donc le platine, ça vaut un petit peu cher. Vous savez, hein. Donc vous avez un crâne moulé en platine qui sert de support à des diamants.
Et la taille ?
Pardon ?
C'est assez gros ?
C'est la taille est la taille d'un crâne est normal, puisque c'est le moulage d'un crâne, c'est ça, cette taille-là. Voilà. Hein, c'est donc un crâne qui, voilà, c'est à cette taille-là.
C'est quand même une vanité.
Alors, voilà, quelle est l'idée qu'il y a derrière ? Vous disiez, c'est d'abord une vanité. Hein. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, là, on est bien habitués, hein, nous qui parcourons souvent l'art ancien, on est bien habitués à cette question. Hein. On est là devant une vanité. Et qui, j'allais dire, est encore plus évidente que toutes les vanités qu'on a pu voir. Encore la dernière fois, rappelez-vous, on a vu une vanité de David Deheim, je crois, par exemple, récemment. Hein, hein, on est là vraiment devant quelque chose qui, très très clairement, est une vanité, qui est dans la grande tradition des vanités que l'on voit depuis le Moyen-Âge, en gros. Hein. Pardon ?
Le crâne a ri.
Oui, alors il a, c'est pareil, je ne sais pas. Il a une espèce d'ornement sur le crâne. Je ne sais pas sa signification. Au départ, j'ai cru que c'était une sorte de blason, etc. C'est visiblement pas le cas. Il y a une sorte de feuille avec d'autres feuilles autour. Je pense que c'est pour donner au crâne une sorte de comment dire petite richesse supplémentaire. Hein. D'ailleurs, ce genre d'objet, est-ce que ça ne vous fait pas penser à d'autres objets ?
Un pendentif.
Oui. Sauf que c'est très gros. Enfin, c'est grandeur nature.
Un diadème.
Oui.
On ne va pas l'utiliser.
Et pensez à l'art ancien. Ce genre d'objet-là, dans l'art autrefois, dans quoi est-ce qu'on pourrait le retrouver ? Pardon ?
Les incas.
Oui.
Des boucliers.
Oui. Oui. Il y a des objets, et en Occident même, hein, où on pouvait trouver des choses très équivalentes.
Ah bon ?
d'Erlicker.
Ah oui.
Quand il était dans Erlicker, il y a quantité de reliquaires où il y a des choses comme ça. Notamment par exemple en Allemagne du Sud, hein, vous verrez carrément des squelettes complets qui sont couverts de tas de basalte, etc. Voilà, donc là, l'artiste qui a fait ça vraiment se place aussi dans cette symbolique-là, hein, celle du reliquaire, hein, où l'os est le support de tout un décor extraordinaire. Donc on est là dans quelque chose qui effectivement est une vanité. Hein, et qui prend en charge en quelque sorte de toute la présentation des vanités depuis toujours en Occident, mais qui également se réfère à l'art du reliquaire, hein, qui est une chose importante, hein, dans cette dans l'art occidental depuis très très longtemps.
Mais c'était...
Vous aviez aussi quand même raison de parler, hein, de d'autres territoires de l'art. Hein. Vous parliez par exemple du Pérou. Moi, j'aurais peut-être plutôt parlé du Mexique. Hein. Je pense par exemple à la culture de Teotihuacan, hein, au Mexique, où on a des crânes comme ça, qui sont, je pense notamment une pièce très curieuse avec une seule pièce de silex dans le nez. Enfin, le trou du nez. Je pense à différentes œuvres également océaniennes, surmodelées par exemple. Hein. Des œuvres tibétaines où les crânes sont utilisés comme coupe, par exemple. Enfin, l'utilisation du crâne, elle existe dans ce qu'on appelle les arts non occidentaux. Hein. Donc effectivement, il y a toute cette dimension-là. Hein. Alors qu'est-ce que vous en penseriez de, je sais pas, quelle est là aussi votre idée maintenant qu'on a un peu décrypté cette œuvre, qu'on a vu ce dont il s'agissait, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en diriez de manière plus subjective, pas très esthétique. On ne mettrait pas ça chez soi.
Même si c'est
bon. Bon, de toute façon, je ne pense pas qu'on soit beaucoup dans la pièce capable de l'acquérir. Mais...
Oui, c'est ça. Hein,
oui, mais c'est ça qui est encore que dans certaines discothèques.
Le rapport de l'os, du squelette, au diamant, au platine,
effectivement, l'espèce de dichotomie entre l'os d'un côté et le diamant de l'autre. Hein. Oui, vous disiez, pardon.
Je disais que moi, je verrais bien ça dans des discothèques un peu psychédéliques.
Oui. Ah oui, oui, il y a un côté... oui, il y a le tournant au plafond et faisant des lumières. D'une certaine manière.
Vous faites Halloween.
Oui, oui, une dimension... un côté... un peu fantastique, boîte de nuit, quelque part, psychédélique, oui.
Et le rapport à la mort aussi,
oui.
Ou comme chez les gothiques, ou les choses comme ça.
Oui, en fait. Oui, oui. Oui, alors, vous avez raison de parler de ça. Vous savez qu'il y a, depuis, une trente, quarantaine d'années peut-être, hein, cette grande mode de ce qu'on appelle les gothiques, hein, qui sont des gens qui s'habillent toujours en noir, qui ont des têtes de mort partout, mais on en voit plein les rues, même l'été, hein, enfin bref, et qui ont comme ça cette espèce d'esthétique de l'os, du crâne, du squelette, etc. C'est quelque chose qui prend en compte tout ça, effectivement.
La face postérieure du crâne et les faces latérales sont évidemment...
entièrement couvert de diamants. Et des vrais, hein, c'est pas des bains, c'est des diamants, hein, ce sont des diamants. Pas vous dire le nombre de carats de chaque diamant, mais ce sont des diamants.
Je peux se payer ça.
À vrai dire, on ne sait pas quel est le propriétaire actuel. Je dois dire que l'œuvre que je vous montre là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais a été au moins pendant un temps l'œuvre la plus chère du monde. Parce que c'est inachetable. Hein. Donc on ne sait pas quel en est le propriétaire actuel. C'est très compliqué. Voilà, hein. Ça a été vendu, on en a beaucoup parlé, etc. Mais c'est une œuvre d'un prix, évidemment, tout à fait considérable. Alors, on change les idées avec une... Ça, c'était la troisième.
Jusque maintenant. Hein, ah, voilà. C'est une fève.
C'est une fève.
Alors, on recommence, comme d'habitude, car nous suivons notre méthode implacablement. Hein. Quelle est la taille, la dimension de ça, et en quelle matière est l'œuvre que je vous montre ici. Et quelle est sa taille, bien sûr. Hein. Pardon. Alors oui, c'est de la résine. Hein, de la résine teintée, voilà.
Ça fait très
fève
de galette des rois. Un
peu. Petit. Petit. Une petite pièce.
Petite.
50 centimètres.
50 centimètres.
Maximum.
Ouais, petite pièce. Je ne peux pas la mettre dans la galette.
Ouais. Pas grandeur. Pas grandeur. Hein. 50 cm, etc.
Et disproportionné, étiré.
Disproportionné, étiré. Alors, je dois très couper Barbie. Alors, je dois vous dire quand même que c'est grandeur nature.
Aussi,
ce que vous avez là a une taille normale, enfin la taille du personnage. Hein. Voilà, alors c'est peut-être 1 m 72, hein, mais c'est grandeur nature, hein, grosso modo. Hein. Donc c'est grand. Hein. Donc un côté, donc c'est en résine, vous l'avez bien dit. Vous disiez, c'est un côté poupée Barbie, très étiré, hein, très longiforme. Oui. Oui. Pardon. Alors ça fait beaucoup penser. Au manga japonais, effectivement. Hein. Effectivement, on est là devant quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup penser au manga japonais. Vous connaissez l'art du manga, hein, qui est une tradition déjà bien ancienne au Japon. Hein. Les mangas sont ces bandes dessinées, hein, entre guillemets, où les personnages ont des types occidentalo-orientaux, si j'ose dire. Et là, vous en avez absolument une représentation. Hein. La figure qui est représentée, c'est qui, c'est quoi ?
Une serveuse.
Une serveuse. Hein. Et vous la caractériseriez comment, cette serveuse manga ? Oui, elle chante un peu. Oui, on ne sait pas si elle propose une table pour en avoir un café, oui, ou autre chose. Hein.
Mais son coin droit est fermé.
Pardon ?
Elle a le coin droit fermé.
Oui, oui, oui. Oui, alors ça aussi, hein, dans les mangas, il y a comme ça des quantités de personnages, des espèces de douze jeunes filles, très mignonnes, charmantes, sveltes, étirées, qui sont capables de vous couper en morceaux n'importe quel monstre ou pas. Hein, voilà. Bon. Donc, elle a l'air très mignonne, très gentille, très chétive, très frêle, mais elle peut certainement vous couper en quatre ou deux minutes. Hein, voilà. Donc, ce point fermé, on peut être un peu inquiet. Hein, absolument.
Très autoritaire.
Oui, ça peut, elle peut être, voilà. On est effectivement dans cette espèce de, là aussi, de double jeu. Là aussi, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'idée ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Elle a une tenue qui est quand même aguichante.
Oui. Oui, on a l'impression que c'est dans un café chic qu'elle est. Hein.
C'est quand même l'idée que la femme...
Un certain chic, on va dire.
Oui. C'est la femme objet.
Ah, l'idée de la femme objet.
De la femme...
Voilà, une espèce de poitrine, en effet, très comme ça. Donc une sorte de femme objet, oui.
Un peu malade.
Un peu... Un peu.
Anorexie mentale.
Oui,
non, la poitrine.
C'est
pas la poitrine.
Pas la poitrine, mais non, mais le reste.
Ah oui, c'est siliconé.
C'est la un côté siliconé et anorexique. Elle n'est pas bien grasse, comme on dit.
Elle a des jambes.
Elle est toute jeune,
Qu'est-ce qu'elle a, justement ? Un gros nœud. Un nœud, hein, qui tient une sorte de. Que de cheval, voilà. Oui. C'est donc un nœud, un petit nœud sur la tête.
Hein.
Un nœud.
Ça va pas avec le reste qui est disproportionné.
Elle est juste.
Oui, finalement, justement, qu'est-ce que vous pouvez remarquer par rapport à ces, disons, des proportions ? Vous l'avez un peu dit d'ailleurs.
Elle est plus grosse que
les jambes. Non, mais oui, c'est.
Ouais. Les bras
oui.
sont.
Oui, oui.
Les bras sont très courts.
Oui, 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 c'est clairement une œuvre qui étire les proportions de manière un peu spéciale. Hein.
Les jambes essentiellement.
Oui, les jambes sont très longues, les cuisses sont très très étirées. Hein. Tout ça est très. On a l'impression qu'on a tiré dessus, quoi. Enfin, hein. Le visage aussi, j'espère. Les yeux, vous avez vu ces yeux énormes qui mangent le visage. Ça, c'est les mangas. Hein. Mais les mangas déforment. Oui, c'est d'une petite bouche, il n'y a presque pas de nez non plus, hein. Un petit truc, voilà. Donc il y a en effet une... Vous disiez peut-être ?
Non ? Moi, je disais que... Moi, je disais penser à une statue de Giacometti qu'on aurait habillée.
Ah oui. Oui, puis colorée, peut-être un peu.
Colorée, un peu.
Et plastifiée.
C'est une serveuse à...
Et là aussi, quel est votre sentiment, votre vision, votre intérêt pour ça ?
Femme objet sexuel.
Femme objet sexuel. Et ça vous plaît, vous avez
non,
ça
pas vraiment, non.
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 Non,
ça ne vous plaît
pas du tout.
Alors, on va aller avec la cinquième.
Ah,
ça, c'est
une
performance.
Photo.
C'est une fête de la performance.
Une performance.
C'est un vieux.
Oui, qui fait des
blanches,
qui fait des habits.
Donc, ce serait une photo.
Une
photo d'une performance.
C'est aussi une
sculpture.
Alors, ben, si c'est une photo d'une performance, c'est une réalité. Donc on a là une femme couchée dans un lit. Et c'est une photo d'une femme couchée dans un lit. Non, c'est ça que vous disiez ?
C'est ce que je dis, oui.
Oui.
C'est pas une
sculpture.
C'est une sculpture.
Ah, une sculpture ? Donc, d'après ce que je comprends, il y a un peu deux idées. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une photographie qui représente donc une femme couchée dans un lit. Hein. Pour d'autres, c'est la photographie d'une sculpture.
Ou d'une peinture.
Ou d'une peinture. C'est-à-dire qu'on aurait là, bah, finalement, c'est la même question que tout à l'heure. Hein. Notre pape. Hein. Pardon ?
C'est un hyper-réalisme.
Hein. Donc on aurait soit la représentation d'une photo représentant une femme couchée dans un lit, soit la photographie d'une sculpture hyperréaliste, soit la photographie d'une peinture hyperréaliste.
Non, moi je vois autre chose.
Ah.
Est-ce que l'œuvre d'art, ce ne serait pas justement la femme qui existe physiquement, en tant qu'être humain, qui est couchée dans un lit, et c'est ça l'œuvre d'art?
C'est ça. Alors voilà, ça ce serait encore le... Oui, c'est une autre solution. C'est-à-dire finalement, je vous le disais tout à l'heure, une performance. C'est-à-dire que finalement, l'œuvre d'art, c'est la femme qui... fait la performance, qui fait la, ce qu'elle fait, son jeu fait œuvre, hein, ce que vous disiez aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc oui, c'est la quatrième solution, effectivement. Hein, j'avais chanté. Hein. Donc une performance, et l'œuvre, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que les plis de la couette, ça ne fait pas très photo.
Statue.
Pas très souriant, cette
personne. Oh, dans une performance, on peut ne pas l'être.
Hein.
Oh, ben dans les performances, on fait en sorte que ce soit un peu comme ça. Alors, je ne sens pas de majorité ce... Je sens que vous voulez la solution.
Oui, absolument.
La solution, c'est la photo suivante qui va vous la donner. Je vous la montre ?
Oh là là, c'est une image.
C'est une sculpture. C'est une sculpture, et là, vous voyez la gardienne de la salle à côté de la sculpture. Mais c'était intéressant vos réactions au départ, parce que je crois que c'est exactement au cœur de du projet de l'artiste. Si vous en compte, on voit ça, c'est quoi ? Est-ce que c'est une photo ? Est-ce que c'est une performance ? Est-ce que c'est une peinture hyperréaliste ou une sculpture ? On ne sait pas trop. Ben, ça fonctionne, hein, la preuve. Donc en fait, vous avez là une sculpture, effectivement hyper réaliste, qui est trois fois plus grande que la nature. C'est-à-dire que, en gros, la tête a la taille d'un corps humain.
La dame, la gardienne, elle pourrait...
Vous disiez, pardon ?
La gardienne pourrait être également...
Ah oui, ce serait une mise en abyme, merveilleux. Mais là, je peux dire que la gardienne, c'est une vraie garde.
Ouais.
Elle donne l'échelle. Elle donne l'échelle. Elle est les vraies. Elle est vraie. Elle est peut-être un peu, comment dire, voilà, c'est une présence un peu... Alors qu'est-ce que... Donc la taille ou la matière, vous avez des idées à vous. Vous avez dit, on est là devant une œuvre. Ben, au niveau des matériaux, vous diriez quoi ?
Résine.
Régine et puis
bois, peut-être.
Alors, il y a du bois en dessous, effectivement, pour tenir les structures de résine. Ouais. Et puis il y a du tissu, hein. Beaucoup même. Hein. Ah, c'est du vrai. Hein, la couette, c'est du vrai tissu, une vraie couette. Mais une couette de géante.
Elle est dans quel musée ?
Alors là, c'est pareil. Alors, vous voyez tout à l'heure dans les légendes que j'ai faites, j'ai jamais mis les lieux où elles sont, parce que généralement, ces œuvres sont dans des collections privées. Vous les enverrez souvent dans des expositions temporaires. Hein, mais la plupart des œuvres que je vous montre là sont pas encore, du moins dans des collections privées. Et vous les verrez dans des expositions temporaires. Alors, ça vous suggère quoi, ça ?
Que le quotidien est écrasant.
Ouais. Bon. Je sens que vous allez vous coucher ce soir avec une autre, un autre regard sur le monde. Ok.
Elle a l'air désabusée.
Elle a l'air un peu désabusée, oui. Oui. Mais c'est ce que vous disiez, finalement, le quotidien écrasant. Hein, le côté un peu...
Alors, c'est un moulage, quand même ?
Pardon ?
C'est un moulage.
C'est vraiment une. À la base, c'est une sculpture faite par le sculpteur et qui est ensuite agrandie et réalisée à la résine. Oui. Alors, peut-être que le sculpteur part de modèles vivants, encore que moi sur les. Alors, je ne connais pas le sculpteur directement, je le connais via ce que j'ai pu lire sur lui, hein, mais je ne crois pas avoir vu d'atelier où on voit le sculpteur en train de travailler sur un modèle vivant, vous voyez. Mais peut-être que c'est quand même le cas, ou peut-être qu'il fait après des photos, que sais-je encore, hein. Enfin, c'est un. À l'origine, il sculpte, et plus exactement, il modèle. Hein, oui. Il fait une sculpture en terre. Hein.
Elle semble méditative.
Oui, effectivement, elle réfléchit. Voilà.
C'est la solitude, quand même.
Pardon ?
C'est la solitude.
Oui, il y a une dimension de solitude. Elle est toute seule. Hein. Elle est toute seule. Donc, il y a une dimension de solitude. Elle réfléchit. Ça va pas mal, mais ça va pas très bien, on a l'impression. Ben non, mais c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. On n'est pas loin du rongeasse d'ongles, mais je crois que c'est pas ça. Enfin, je crois tellement mieux.
C'est déprimant.
Oui, je ne crois pas.
Je trouve que c'est une représentation de la dépression.
Une représentation de la dépression, c'est-à-dire une manière... vous le ressentez comme quelque chose d'assez dépressif. Et... Bon.
La taille qui est surprenante.
Qu'est-ce qu'elle a de... quel est le statut de la taille là-dedans ? Pourquoi avoir fait ça comme ça, après tout ?
Par provocation.
Par provocation, mais pour provoquer quoi ?
Pour provoquer le spectateur devant le...
Pour surprendre.
Surprendre ?
Oui.
Et la surprise, elle est de quelle nature, de quel ordre ? Parce qu'après tout, on voit tous les jours des grands arbres, des grandes choses, on en voit, des grands immeubles, des grandes choses, on en voit. Hein.
Oui, mais sur des choses, des grands
choses, c'est assez. Oui, voilà, c'est-à-dire que, évidemment, cette femme, elle n'a pas à être grande, et là, elle est grande, c'est-à-dire qu'elle n'est pas. Oui. C'est pas normal, quoi. Hein, donc, on est surpris parce que les proportions ne sont pas celles qui existent dans la réalité, quoi. Donc il y a cette espèce de surprise-là, et cette surprise, elle permet quoi ? Imaginez la même œuvre en grandeur normale.
On
ne la verrait pas ? Ce serait peut-être plus fade, oui, effectivement.
Hein, ça deviendrait un gisant ou l'équivalent, si c'était à grandeur normale.
Oui, c'est ça. Finalement, ça deviendrait une sorte de gisant un peu habituel. Alors là aussi, vous verriez ça chez vous, peut-être ?
Ah non,
j'ai pas de chance. Hein.
Rien.
Vous voulez pas de diamants, vous voulez pas une charmante serveuse en plastique, vous voulez pas une... Alors c'est vrai qu'il faut avoir la pièce correspondante, ça je suis d'accord. Bien. Peut-être le pape avec son météorite. Bon, ça peut être sympa, ça. Non ? Ah non. Bon. Écoutez, vraiment, je ne sais pas. Bon. Encore une fois, toutes ces œuvres sont un peu chères et elles sont disponibles, à mon avis, hein. Mais voilà, il faut un petit peu négocier. Hein. Bien. Est-ce que vous... On va continuer un peu. Est-ce que vous connaissez certaines de ces œuvres ? Est-ce que vous connaissez certains des artistes qu'ils ont réalisés ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Non.
Oui. Allez-y. Voilà. Et alors, c'est quelle sculpture ?
Michael Jackson.
Voilà. Le Michael Jackson, c'est une œuvre de Jeff Koons. Hein. Jeff Koons, vous le connaissez sans doute au moins de lui dire. Hein. Il y a eu une exposition au Centre National, au Musée National d'Allemagne, au Centre Georges Pompidou, l'année dernière, hein, enfin, ou avant dernière, en 2015. Hein. Effectivement, Jackson, c'est une œuvre de Jeff Koons. Hein. Très bien, donc voilà un trouvé, il en reste quatre autres. Est-ce que les quatre autres vous disent quelque chose? Non. Peut-être que certaines images vous disent quelque chose, mais que les noms, par contre, voilà. Alors, on va justement essayer de voir. La première œuvre que je vous ai montrée là, hein, le pape, c'est une œuvre qui est d'un artiste qui s'appelle Maurizio Cattelan. C'est un Italien. Hein. Il est né, vous le voyez, à Padoue. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un artiste qui était assez proche de ces questions. Hein. Non pas parce qu'il est polonais, mais parce qu'il est italien. Et qu'en Italie, bah, forcément, on est quand même toujours environné de... Il y a toujours une église par-ci, une sculpture par-là, enfin voilà. Hein. Et l'œuvre s'appelle la Nonna Ora. Ça veut dire quoi? La neuvième heure. Ça recoupe ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Et c'est pour ça que c'était marrant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est exactement ce qu'a voulu dire le sculpteur. Hein. C'est-à-dire que l'idée, vous savez, la neuvième œuvre, c'est le moment où le Christ va rendre l'âme, pourquoi as-tu abandonné, etc. Et c'est ça, c'est le nom de cette œuvre. Hein. C'est assez marrant que vous l'ayez trouvé tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc la Nonna Ora, cette œuvre de Maurizio Cattelan. Hein. Par parenthèse, il y a actuellement à la Monnaie de Paris, à Paris, une grande rétrospective Maurizio Cattelan, où je crois que cette œuvre est présentée. Donc ça, c'est pour le premier de ces cinq artistes. Deuxième, vous l'avez dit, c'est Jeff Koons, hein, voilà, grande sculpture en porcelaine, on en a parlé. Bien. La troisième œuvre, qui encore une fois a défrayé la chronique, parce que ça a été, ça risque d'être toujours l'œuvre la plus chère du monde, hein. C'est une œuvre de Damien Hirst, que voilà. Hein. Alors, le nombre de diamants est précisément de 8601 diamants. Mmh. Voilà. Ça, vous pouvez vous faire quelques bagouses. Sauf qu'il vaut mieux pas, parce qu'évidemment, vous déprécieriez l'œuvre. Donc ça, c'est Damien Hirst. C'est un anglais. For the love of God. Hein, pour l'amour de Dieu. Alors, alors, les titres ne sont jamais choisis pour rien. Hein. Les deux titres précédents, la Nonna Ora, on l'a vu. Hein. Vous l'aviez d'ailleurs trouvé avant même qu'on voit le titre. Jackson, bah, c'est très descriptif. Là, pour l'amour de Dieu, les titres de Damien Hirst sont toujours des titres qui, comment dire, prêtent à caution. Évidemment, pour l'amour de Dieu, on peut se dire bah, Dieu est le créateur, et donc il a créé toutes choses, dont les humains, voilà, le crâne d'un être humain, donc quelque part, c'est la création, etc. Mais en même temps, c'est une tête de mort. Ça peut être une allusion via cette idée d'Urliquaire, hein, à la tête du Christ qui est mort pour Dieu. Hein, voilà. Puisqu'on est là devant une pièce reliquaire, ça correspondrait assez à cette idée. Les titres de Damien Hirst, à mon avis, puis c'est assez typique du personnage, peuvent aller dans plein de directions différentes. En tout cas, c'est un artiste anglais, hein, c'est le plus jeune de la bande, du reste, il est né en 65. Et à Bristol.
Mais il a fait ça sur une commande ou quoi?
Non, c'est lui qui l'a réalisé. C'est vraiment une création de sa part.
Mais comment
il
est brillant?
Ah, mais Damien Hirst, c'est un des artistes les plus riches du monde. Hein. Oui, c'est un artiste très très. Il n'y a pas de problème. Quoi, hein. Alors, il faut un peu. Peut-être un peu avancer trois liquidités, mais enfin, acheter 8000 diamants, c'est pas non plus un problème. Ce sont des vrais. Alors, je vous dis pas que tous les diamants, il y a peut-être des diamants qui, ils sont pas très grands, vous le voyez. Hein. Donc voilà, c'est pas, il y a des grands diamants, c'est la région, je crois, qui était un diamant que vous avez conservé. Donc c'est des diamants au lieu de plus petite taille. Ça, en fait, ça vaut quand même 3 sous. Hein. Voilà, surtout qu'il y en a 8000, donc ça commence à faire une petite somme, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est un artiste qui, comme tous les artistes que je vous montre, hein, tous ces artistes-là comptent aujourd'hui parmi les artistes les plus chers du monde. Hein. C'est d'ailleurs pas un critère d'importance et qualité, après tout. Hein, mais vous les trouverez dans toutes les grandes collections d'art contemporain du monde. Hein. Vuitton, la collection Pinault, la collection, je trouve plus le nom de l'autre. Tant pis, les grandes collections des Émirats arabes, etc., vous avez des œuvres de ces gens-là. Hein. Ou les grandes collections chinoises, etc., américaines, vous avez tout ce monde-là. Tous ces gens-là, ils sont. Hein. Donc, c'est des artistes extrêmement cotés. Vous n'avez rien à moins d'un million de dollars. Hein. C'est pas possible. Hein. n'existe pas. D'accord. Oui, oui, grande collection japonaise aussi. Hein. Alors justement, à propos du Japon, vous avez bien senti qu'il y avait là une œuvre manga, hein, et de fait, l'œuvre est d'un artiste japonais qui s'appelle Takashi Murakami. Miskao 2. Alors là, moi, je ne suis pas assez manga, je ne sais quoi, il y a un mot pour dire amateur de manga, pour vous dire qui est Miskao 2. Mais, alors Kao, évidemment, on pense à Kao, hein, on y mit Kao. Est-ce que c'est une référence à ça? Je ne sais pas. Mais il faut que je me renseigne auprès d'amateurs de manga qui nous en diront aussi, sûrement plus. Et puis, la dernière œuvre que je vous... Alors, oui, par parenthèse, Takashi Murakami a été, il y a 2 ans, exposé au château de Versailles. Hein, vous en aviez peut-être entendu parler. Et je vous montre là un autre exemplaire de Miskao 2 exposé dans la galerie des glaces au château de Versailles. Hein. Alors, je voulais vous le dire parce que c'est une manière de nous rappeler à l'histoire récente. Et puis là, cette dernière œuvre, l'œuvre d'un artiste australien qui s'appelle, je ne sais jamais comment on doit prononcer son nom, Ron, je pense que c'est Meuk ou quelque chose comme ça, ou Muke peut-être. Non, qu'est-ce que vous en pensez? M-U-E-C-K. Il est australien, il est sans doute originaire d'Europe de l'Est, je suppose, hein. Ron Muke me paraît peut-être assez normal comme prononciation. Voilà, c'est donc un Australien, et c'est lui qui a réalisé cette œuvre. Alors, ce que je voudrais, dans la demi-heure qui suit, maintenant qu'on a bien regardé ça, je vais vous passer 20 œuvres de ces artistes, et on va faire ce qu'on va essayer d'habitude, c'est-à-dire de voir qui a fait quoi. Et là aussi, d'avoir, alors plus rapidement que ce qu'on vient de faire, hein, j'en enlève mon pullover parce qu'ils vont ça faire chaud, et je vous propose donc d'avoir un petit regard sur ces œuvres et d'essayer de voir... ce que on peut en dire, et encore une fois, quels sont les artistes qu'ils ont réalisés. Ces 5 artistes, on vient de les identifier. Maintenant, je vais vous montrer donc des ordres, bien entendu, hein, des œuvres de tous ces artistes-là, et on va essayer d'en parler. Avant, je voulais quand même vous montrer leur trombine. Après, on est au XXIe siècle, le bien, c'était pas comme ça autrefois, c'est qu'on peut voir à quoi ressemblent les artistes. Et je trouve que quelquefois, c'est intéressant d'avoir une idée de ce à quoi ils ressemblent. Ça permet d'incarner un peu l'œuvre, et puis à notre époque people, de toute façon, il faut voir les œuvres. Hein. Voilà. Donc, essayons de voir à quoi ressemblent ces différents personnages. Hein. Je voulais quand même vous montrer ça, j'avais oublié. Voilà un détail, hein, de notre femme au lit, hein, de tout de suite. Hein. Donc, elle ne se ronge pas les ongles. Hein. Hein. Ça se confirme. Enfin, elle est effectivement pensive. Hein. Ok. C'est étonnant, hein. Bien. Alors, je vous montre les visages des 5 articles qui nous intéressent. Voilà Maurizio Cattelan, hein, notre Italien de l'étape, celui du pape.
C'est un beau garçon.
Ah, c'est un Italien, hein. Voilà Jeff Koons, hein, qui est le gendre idéal, en tout cas, physiquement parlant. Hein, voilà. Voilà Damien Hirst. Notre crâne diamanté.
C'est hein. Vague.
Ah, et puis ce personnage qui joue son rôle. Hein. Voilà Takashi Murakami, bien entendu. Ça, facile à reconnaître par rapport. Et vous le revoyez avec sa Miskao 2. Hein. Et voilà Ron Muke, appelons-le comme ça, notre Australien, qui à gauche est représenté dans son atelier. Voilà. Comme ça, vous aurez de quoi incarner un peu ces personnages. Mais c'est maintenant que les Athéniens s'atteignirent, parce que je vais vous montrer des œuvres, et vous allez me dire quel est l'auteur des œuvres, car vous les connaissez tous, hein, maintenant, et on va essayer de voir qui a fait quoi. On y va ? Eh bien, allons-y. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous y voyez ? Un cheval, mais ce cheval, il est spécial.
Mais la tête est où est-elle ?
Voilà, il a la tête dans le mur.
Voilà.
Hein ? Bien. Et puis, il y a autre chose de spécial quand même.
Enfin, à cet endroit-là ?
Oui, à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il est, il est en hauteur, quoi. Voilà. Parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de voir les chevaux par terre. Là, c'est pas le cas. Hein ? Ça peut vous rappeler quoi, d'ailleurs, ça ? Pardon ? Cattelan, vous verriez bien une œuvre de Maurizio Cattelan.
Oui. Mmh.
Mais ce genre de, peut-être, hein, on va voir, hein, je vois que c'est une option en tout cas, et cette œuvre-là, ce cheval qui est pendu au mur, mais on voit le corps et pas la tête.
C'est l'arrière d'un trophée.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que, vous savez, dans les maisons traditionnelles, etc., il y a toujours des trophées de chasse. Hein. Oui. Vous avez le cerf, le sanglier, le machin, là, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire vous avez tout sauf la tête. Hein. C'est l'inverse d'un trophée. Hein. C'est-à-dire c'est, effectivement, là, il y a un côté un peu grinçant. Hein. C'est pas un trophée, c'est l'inverse. Hein. Alors, c'est effectivement un cheval, c'est un vrai cheval naturalisé, hein, c'est grandeur nature. Ça date de 2007. Hein. Voilà. Et donc, c'est donc pas la tête qui est naturalisée et présentée, c'est le corps. C'est l'inverse de l'habitude. Le japonais, vous pensez plutôt ? Donc, on hésite entre Murakami et Catalan, c'est ça ? Les autres, non. Catalan. Bien, on verra, parce que tout à l'heure, je ramasserai les copies, on verra. Ah ! Et voilà une œuvre. Qu'est-ce que vous y voyez ?
Eh bien, pareil que Catalan avec le pas blanc et la météorite noire. Et là aussi, il y a le bleu.
Ah oui, on aurait donc une autre de Catalan, oui. Un peu plus soft, peut-être. Voilà. Hein.
Ah, oui,
c'est tout blanc.
Avec une reprise de statue antique et qui est peut-être à Rome. Et,
oui.
Mais alors, statue antique ou alors début 19e, fin 18e, début 19e.
Alors, c'est les deux, à vrai dire. vous avez ce que je comprends. En fait, c'est bel et bien une statue antique. Je crois aussi, mais je n'ai pas vérifié, que l'original se trouve au musée du Vatican à Rome, hein, effectivement. C'est une sculpture qui représente Ariane. Vous savez, Ariane a été abandonnée par Bacchus, hein, qui l'a laissée sur l'île de Naxos, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc elle se languit sur son île. Elle n'a pas été abandonnée par Bacchus. Elle a été abandonnée par Aînée et Bacchus. C'est Bacchus qui va la retrouver. Hein. Mais là, elle se languit, n'est-ce pas ? Elle attend que Bacchus arrive, en quelque sorte. Hein. Et c'est une sculpture qui a été très très célèbre et dont on a fait de très nombreuses copies au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on a plein de copies du XVIIe, XVIIIe siècle. Hein. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'a fait l'artiste qui a fait ça ? Oui, mais la sculpture elle-même, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est un moulage. Hein. C'est un moulage en plâtre, comme on voit, vous savez, dans les écoles des Beaux-Arts. Hein. Mmh. Dans les Beaux-Arts, il y a plein de moulages en plâtre. C'est un moulage en plâtre d'après cette sculpture antique. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Voilà, il a introduit cette boule. Tout à l'heure, on avait le pape avec un météorite. Là, on a Ariane avec boule toute bleue.
C'est la Terre qui est représentée
en
bleu. La
représentation de la Terre, en quelque sorte. Hein. Donc, on aurait encore Catalan. Donc, le cheval, c'est Catalan, et ça, c'est Catalan.
Ah,
non, pas Catalan. Le cheval, c'est pas Catalan ?
Non.
Non. Non. Ah ben moi, je ne sais pas. Hein. Enfin, si, je sais, mais je ne vais pas vous dire. Alors, en vous mettant la légende, ça va peut-être vous... Non ? Jeff Koons ? Donc, celui de notre Michael Jackson de tout à l'heure. Hein ?
Oh non.
Marquez, ça peut peut-être être Murakami ou Ron Neumann. Hein, voilà, c'est un dessin. Ça, c'est sûr que c'est un dessin. Bon, bah, on verra tout à l'heure. On va passer au suivant. Ah, le japonais. Ça, hein, Takashi Murakami, japonais. Hein. C'est quoi comme matière, ça ? Du
textile.
Ah, un textile. Ok. Et les couleurs sont obtenues comment ? Parce que donc on a. Vous pensez plutôt à des ronds textiles collés alors ? D'accord, des pastilles collées. Donc ce seraient les pastilles collées. Hein ? Des pastilles collées, des pastilles de feutre collées sur le fond. Hein ? Ben, à vrai dire, pas tout à fait. Enfin, pas du tout, même. À vrai dire, ce sont des taches de couleur. Hein. C'est fait à la peinture à l'huile sur toile. Voilà. Très traditionnel. Pardon ?
Il y avait des gabarits.
Ah, flumekine. C'est une substance qui peut servir à la réalisation de certains médicaments.
Hein ?
Et après, on a des hallucinations.
Exactement. Tout à fait.
On a
ça peut servir absolument. Ça peut servir à des médicaments, mais ça peut servir de drogue également. Donc c'est effectivement, c'est quelque chose qui sert à la pharmacopée, mais en dose importante et avec rien d'autre, ça permet des hallucinations. Donc nous avons là une œuvre de notre manga qui est un peu halluciné, hein. Notre Takashi Murakami. Ok. Bon. Alors, allons vers la suite des événements. Alors ça c'est d'abord c'est quoi? Alors ça vous allez directement à l'auteur. Mais avant l'auteur, notre petite méthode nous impose de voir ce que nous avons sous les yeux. Un éléphant. Ok. Et cet éléphant, il est fait en quoi? C'est fait en quoi ça? Du plastique, du verre.
Un ballon.
Oui, ça fait beaucoup penser, vous savez, à ces ballons. Quand j'étais petit, il y avait même des bouées comme ça, vous savez. Voilà. Une sorte de ballon. Hein. Donc, une espèce de ballon, donc un éléphant-ballon, hein, en quelque sorte. Il y a des lapins comme ça, etc. Sauf que c'est pas ça, hein. Parce que c'est en acier. C'est en acier patiné. Donc, ça a l'air d'un ballon, mais ça n'est absolument pas un ballon. Mais ça a l'air, donc comme quoi ça marche bien. Hein. C'est complètement trompeur. On a l'impression que c'est un ballon, ça se réfère à ça. Hein. Quand j'étais petit, je me rappelle, on avait un truc comme ça. Hein. Voilà. Voilà, donc ça rappelle absolument une sorte d'animal en plastique qu'on gonfle, hein. Sauf que c'est pas ça. Hein. Ça rappelle ça, ça évoque ça, ça représente ça, mais c'est fait en acier. Hein. Donc la légèreté fait place à la lourdeur. Hein. Et alors qui?
De Kuntz.
Kuntz. Jeff Kuntz. Là, il y a l'unanimité. C'est Kuntz. Hein. On est OK.
Oui.
Ah, ça, on verra tout à l'heure.
Oh, c'est plein de crânes.
Oui, il y a des crânes.
Oui, mais il y a des caractères chinois.
Ah, oui, mais alors ça... Ça peut être une fausse piste. Hein.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'alors là.
Oui.
Là, vous savez.
Il y a un animal au milieu.
Il y a un animal au milieu, oui. Ouais.
Un lion, un chat, un tigre.
Oui. Ouais. Un fauve. Un fauve.
Le crâne, ça c'est l'inspiration, mais c'est pas du
tout. Alors, comme donc vous avez vu, on a vu qu'il y avait un crâne avec un fauve au milieu, ouais. Et techniquement, c'est quoi ça?
Peinture.
Hein. Là, on est dans une peinture, on est très traditionnel, technique habituelle. Voilà. Hein. Et donc, vous allez dans le sens de Takashi Murakami. Pardon, Hearst. Il y a des crânes. Hein.
Oui, il y a des crânes.
Oui, mais ça, vous savez, aujourd'hui, les Japonais mettent de l'anglais ou du français dans leur truc, et les Français mettent du japonais. Ça. Aujourd'hui, ça, c'est plus un critère. Hein. Ça peut en être un, mais il n'est pas obligatoire. Mais je ne veux pas vous influencer. Aucunement. Vous me connaissez. Bon. Alors, on hésite entre Hearst et Murakami. Bien.
C'est l'Australien.
C'est Ron Muick. Je ne sais pas comment on peut. J'aimerais bien. J'ai toujours vu son nom écrit, jamais prononcé. Donc, je ne sais pas comment. M-U-E-C-K. Donc, Muick. Je ne sais pas. Bon. C'est une œuvre un peu scotchante, oui. Donc, techniquement, c'est quoi? Une résine.
Une résine.
Des bandes de...
Ouais. C'est une œuvre de quelle taille?
Grande.
Voilà, d'un taille d'individu, grandeur nature. Hein, ok. Une œuvre en résine qui représente donc quoi?
Un homme scotché.
Un type scotché sur un mur.
Une bédaine. Okay.
Pardon ?
Il ne touche pas par terre.
Alors, on ne le voit pas là, mais le sol est à... souvent, quand l'œuvre est présentée, il est à un mètre ou deux du sol. Hein. Vous voyez, c'est en hauteur. Hein. Voilà, oui, il tient à cause du scotch. Hein. Donc, c'est du scotch costaud. Hein. Là, on demande la marque. Hein, et ça s'appelle
un
perfect day, un jour parfait. Hein. Effectivement, tout se passe bien, il ne va pas tomber, c'est quand même chouette. Hein.
Mais à chaque exposition, on recommence.
Exactement, absolument. Ouais. Ouais. Enlever le scotch, on va mettre le scotch. Ouais, comme vous dites. Donc on est là devant une œuvre de Ron Meuk. Ou Meuk, ou je ne sais pas. Ok, de Ron. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ?
Deux vieilles femmes.
Deux vieilles femmes qui discutent.
Oh, mais pas très grandes quand même par rapport au sol. Là.
Oui, elles ne sont pas très
grandes. Elles ne sont pas très grandes.
On voit la plainte.
Oui.
Un mètre de haut à peu près.
Un mètre de haut. Donc on aurait deux sculptures.
Porcelaine.
Ah, la porcelaine.
Non.
Résine. Résine et textile.
Oui.
Résine textile. Bien. Et qu'est-ce qu'elles font ces deux petites dames?
Elles disent du mal.
Elles disent du mal de nous, à vrai dire.
Très
elles ont droit à dire, visiblement. Hein.
Surtout celle de droite, elle a très méchante.
Ouais. Et oui.
On dirait des femmes trolls.
Oui, elles ont un côté femme troll, oui. Mais ça irait bien avec l'idée de la taille. Vous disiez qu'il s'agissait sans doute de sculptures assez petites. Hein. Donc il y a un côté troll, effectivement. Hein. Et alors l'auteur?
Eh bien, celle qui a fait la femme bouchée.
Encore lui, alors le même que le précédent.
Non, oui. Italien.
Ah, italien. Ah, Maurizio Cattelan.
La facture de la rétable du visage.
Oui,
c'est l'auteur du pape.
Oui,
ah, l'auteur du pape. Bon. Bien, 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 bien. Ah, les chaussures sont italiennes, ça, évidemment. Ça dit tout.
Oula.
Et ça.
Oui, voilà.
Alors là d'abord, la même chose, la matière et la taille.
En cristal,
on dirait oui, du cristal.
Alors, c'est pas du cristal ni du verre. Non. Alors, c'est du métal, vous disiez quoi ?
Du platine.
Pas du plexiglas non plus. C'est du métal. Mais quel métal ? C'est de l'argent. Alors, à vrai dire, c'est de l'argent mélangé à un peu de cuivre. Il apporte un nom spécial que je ne sais plus, mais c'est de l'argent avec un peu de cuivre. Mais c'est de l'argent. Hein.
D'accord.
Bon. Quelle taille?
3
centimètres. 3 centimètres?
Oh non, comme
je
vais. 30.
Non, non, 2
centimètres.
30. Comme la
Tu es comme ça, quoi.
Voilà.
Bon, en fait, c'est grandeur nature. Enfin, grandeur nature comme vous et moi, quoi. Ça, cette taille-là. Voilà. Oui, ça. En gros, ma taille. Donc, c'est grand. Ovale, God. C'est celui du crâne. Damien Hirst. Notre anglais, celui qui aime tant les matériaux chers. Et qui aime Dieu. Ah, God, ah oui, ah oui, j'avais pas fait ça. Oui. Donc on aurait celui Damien Hirst. Hein. Vous pensiez aussi ça?
Oui.
Ouais. Donc matière un peu. Hein? Ok. Ah, l'italien Maurizio Cattelan.
Oui. Non.
C'est Ron.
Non.
Ron quelque chose.
Non, oui.
Petite taille. Donc une petite sculpture de Ron Meuk.
Oui.
Ou bien une sculpture de Maurizio Cattelan. Ou une grande. Pas forcément petite. Ah oui. Ah oui. Bon, si je vous dis le nom de la pièce, et ça vous amènera pas grand-chose. Hein. Bon. Okay. Oui, je crois. Hein.
Les malfagotés.
Alors, ça, c'est la panthère rose.
Ça s'appelle la panthère rose. Enfin, ça s'appelle The Pink Panther.
C'est le KO2, là.
Ah oui, Takashi Murakami. hein, l'auteur de KO2 manga. Hein. Voilà. Donc avec une sorte de girl, très blonde, qui porte la panthère rose. Ok. Monsieur Rami.
Les cheveux, faut penser à ceux de Maître Jackson.
Oui, oui. Ah oui. Donc vous y voyez plutôt une œuvre de Kunz. Enfin, les cheveux ressemblent à d'autres cheveux, mais ouais. Donc on hésite entre Murakami et Jackson. Et Kunz. Bon. Plutôt Kunz.
Oui.
Eh bien, on verra. Alors, ça ressemble à les vitraux. Ah, peut-être. Mais on n'a pas l'impression que les lumières passent, lui.
Non.
Donc c'est comme d'un vitrail, mais c'est pas tout à fait un vitrail, parce que les lumières passent pas, effectivement.
Avec des pierres sur une peinture.
Ah, des pierres.
Des
mosaïques. Non, une sorte de mosaïque.
Des papillons.
Une sorte de mosaïque. Des papillons.
Des ailes de papillons.
Au
centre. Bleu.
Là. Donc ce serait une mosaïque de papillons. Ok.
Il n'y a pas des yeux.
Il y a des yeux.
Papillons
ou
d'anges.
Ou d'anges. Des ailes d'anges. Alors soit c'est des ailes d'anges représentées ou des vraies ailes de papillons. Hein. Ah, peut-être que la légende va nous en dire davantage.
Il y a des petits animaux en haut, un peu des nounours.
Technique mixte, on n'a pas de chance. Ah. Technique mixte, ça veut dire que c'est très mélangé. Hein.
Le royaume du père,
c'est Dieu. Eh oui, le royaume du père. Ça, on comprend assez bien. Alors, vous verriez qui, là, pour l'auteur de ça, de ces vitraux qui sont soit mosaïques, soit papillons, soit Pierre, enfin bref, vous avez vu plusieurs choses. L'italien, Maurizio Cattelan. Hein. On verrait bien le pape en dessous.
Non.
Damien Hirst.
Oui, moi je verrais mieux.
Ah, pas Cattelan alors.
Non.
Rich Anglais.
De
1800 diamants. Celui qui a fait la chose dorée. Oh,
alors là, c'est
l'Australien. Alors ça, quelle taille?
Gros, oh, énorme.
Très grand. Hein. Ça fait à peu près 2 mètres de long. Hein. C'est énorme. Hein. Énorme. Hein. L'Australien, Ron. Le gigantisme, celui qui a fait la Dame au lit. Quoi? Ok. C'est comme d'habitude, un résine, etc.
Oh
là.
Le
japonais. C'est en quel... Alors d'abord, ça fait quelle taille? C'est en quelle matière? Ne perdons pas de vue notre méthode.
Il y a du métal, non?
Il y a du métal. Et puis quoi d'autre?
Du
fer. Du fer, sans doute.
Du fer coloré.
De la résine, oui. Il y en a même pas mal, résine ou plastique. Hein. Et la taille?
70-80
grand. Oui, c'est jusqu'en haut, hein, là aussi, ça fait la taille humaine. Hein, c'est très haut. Hein. Et alors, l'auteur? Murakami? Flower Matango. C'est quoi le nom japonais, ça?
Ouais.
D'accord. Il aurait marqué Flower Bouddha en avant. Le grand mot tombeau, c'est japonais. C'est clairement japonais.
Ah, c'est
l'italien.
C'est le cheval.
Ah, c'est le cheval, ça. Donc c'est Maurizio Cattelan, notre beau ténébreux italien, hein, de tout à l'heure. Ah, non. Bon. Ça manque d'unanimité, hein.
Moi, je pense.
Oui.
Un cadran solaire avec balai.
Une sorte de... Oui, oui. Ça vous dit quoi, cette œuvre, d'ailleurs? C'est... Matière, c'est quoi? On a comment?
Balai et tissu.
Balai.
Et tissu.
Une toile, voilà. C'est une toile qui est collée au mur par un balai. Un peu comme si la concierge qui est dans l'escalier avait posé son balai contre la toile. Absolument, voilà. Ça fait des dégâts. Voilà.
Un peu après, c'est génial.
Bah oui, le tableau est de travers, la toile est abîmée, ah, vous savez bien. Il ne faut jamais mettre un balai contre une toile, on ne le dira jamais assez. Et ben voilà. Toile, bois, plastique. Et donc, c'est de qui ça? De l'Australien.
Non.
Ah non?
L'Italien.
De l'Italien. Italien, Australien. Il y a beaucoup d'Italiens en Australie, de toute façon.
Ah, ouais.
De la pâte à modeler.
Ça n'a pas tenu. Hein.
Ça n'a pas tenu. Mais souvent la pâte à modeler, au bout de quelques temps, oui, c'est. Bon, au niveau de la taille, vous savez ce qu'il en est. C'est très très grand. Hein. Au niveau de la matière.
Papier mâché.
Papier mâché.
Du tissu.
Non, ah, du tissu.
Non, pas du tissu.
Ah, résine. Eh bien, c'est de l'aluminium.
Bon. Plédo, oui, c'est la marque de pâte à modeler.
Pardon ?
C'est tout à fait
la pâte. Absolument, Plédo, c'est la marque de pâte à modeler. Ok. Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? Un aquarium.
C'est une vraie vache.
Une vraie vache. Une vache.
Plutôt un homme, plutôt un bœuf.
C'est un garçon, oui.
Un cheval avec une tête de vache.
Oui, non. Bah, en fait, c'est sa tête. Hein, Donc, on a une vache dans un aquarium, ou un taureau, ou un veau dans un aquarium. Un taureau dans un aquarium. Bon. Mais, pardon.
Le trait vertical au-dessus de la tête.
C'est quoi?
C'est la licorne.
Alors, ça pourrait être en effet une licorne. À vrai dire, quand vous regardez l'animal de face, c'est un peu différent. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Alors, c'est pas une corne, ni une corde. C'est autre chose. Quand on est devant, j'ai fait exprès de ne pas vous mettre la photo devant, mais c'est bien que vous ayez remarqué ça. Quand on est de face, alors je vais vous dire, ça fait un cercle. Une sorte d'auréole.
C'est apis.
C'est apis. Autrement dit, vous avez la apis, et dans notre imaginaire judéo-chrétien, dirons-nous, cette idée de apis avec le disque, qui est en quelle matière ce disque? En or. Ça rappelle quoi?
La civilisation égyptienne.
Oui, et puis ça rappelle un épisode célèbre.
Le veau d'or.
Le veau d'or. Je ne vais pas vous chanter Berlioz, n'est-ce pas? Le veau d'or a toujours du boom, mais enfin c'est ça. Hein
si.
Non, Berlioz ou Gounod, je ne sais jamais. C'est Gounod. Voilà. Donc voilà, ça nous rappelle le veau d'or, donc l'épisode de Moïse, hein, hein, et le veau d'or. Et d'ailleurs, cette œuvre s'appelle Le veau d'or. Hein. Bien nommé d'ailleurs, parce que le cercle qui est au-dessus de la tête du veau est en or, et les sabots sont également dorés, et la vitrine est plaquée or. Donc vous voyez. Donc ce serait Damien Hirst, notre diamantaire de tout à l'heure. Hein. Mais dans quoi est, parce que le taureau il tient comment? Moi je mets sur un taureau, mais. J'imagine la taureau dans un aquarium.
Non, mais vert et formol.
Un formol, voilà. Ah ben oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas fait dire avant. Je vais un peu vite. Donc, formol. Donc, c'est un taureau qui est conservé dans les formoles. Alors,
comme le cheval.
Alors, le cheval, il était naturalisé.
Ben oui, mais c'est aussi.
Hein, alors que là, il n'est pas naturalisé, il est formolisé.
Ça
nous fait penser à ça. Je tiens à dire que cette œuvre a été réalisée bien avant la série des attentats. Mais il faut regarder les artistes, ils nous disent beaucoup de choses.
C'est un accident d'avion.
En quelle matière?
Tissu.
Tissu. Et en quelle dimension? Grandeur nature. Tel réel. C'est du marbre, ça n'est pas du tissu. Ce que vous avez là, ce sont des sculptures sculptées dans le marbre. C'est du marbre. sorte de gisant, effectivement. Vous savez qu'il y a une très très grande tradition en Occident, hein, de la sculpture drapée, hein, dès l'époque hellénistique, hein, on fait de la sculpture drapée. Le rapport du drapé et du corps est une vieille idée de la sculpture occidentale. Hein. Bon, là, elle est évidemment un peu axée, on va dire, mais on a donc des linceuls, mais tout ça est en marbre. L'auteur, l'Australien,
oui.
Ron Monk.
Oui.
Ok.
Ça, c'est les deux petites mamies.
Ah, ça ressemble aux deux mamies de tout à l'heure. Hein. Elle est plus jeune, elle n'est peut-être pas tellement plus gaie d'ailleurs. Hein.
Non.
C'est des filles de la mamie.
Qu'est-ce qu'elle porte ?
Un bébé.
Un bébé.
Et deux sacs, voilà, ça s'appelle Woman with Shopping. Et alors, de qui elles étaient nos mamies tout à l'heure ?
L'Italien.
L'Italien Catella. On arrive à la fin. Et après, je ramasse les copies.
Alors, ça, c'est difficile. Hein.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un cadre abîmé.
Pardon ?
Il est abîmé, le cadre.
Alors, en fait, c'est la... Vous parlez de ça,
c'est
là.
C'est l'ombre.
C'est l'ombre. C'est l'ombre du sol qui est en face. Vous voyez, le sol qui...
Ah, oui.
Alors, il y a en effet un cadre. Voilà.
C'est un textile, non ?
Alors, c'est pas un textile à l'intérieur.
C'est ce que j'en décris ?
Non plus.
C'est brillant, s'il y a...
C'est en argent.
Alors, c'est brillant, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est en matière, alors c'est peut-être en alu, d'ailleurs en alu poli, vous voyez. Hein. Il y a un verre en trois parties, et derrière le verre, il y a des choses. Alors, il y a peut-être des éléments en céramique, peut-être des éléments en résine aussi.
Pardon. C'est une mosaïque ?
Ça fait un petit peu penser à une mosaïque. Alors, la différence, si vous voulez, c'est que ça fait un peu, vous aviez dit quoi ? Je viens d'entendre un truc là. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un peu. En fait, vous avez des sortes de. Vous avez une centaine de petites étagères. Hein, vous les devinez là. Hein.
Oui. Oui,
vous
voyez, oui, oui.
Et sur les étagères, il y a des petites choses posées comme des petits grains. En fait, ce ne sont pas des petits grains. Ce sont des.
Diamants.
Non plus. Oh, vous plaisez dans le riz, dans la richesse maintenant. Hein, maintenant qu'on a commencé, les diamants, le bon riz, etc. Oh, je vois. Maintenant, quand je me ramène vers le plastique, je sens bien que ça remarque. Hein. Elles ne sont pas des diamants, ce sont des...
Des graines, peut-être.
C'est un petit peu mieux que ce sont des médicaments.
Oh.
En fait, vous avez une armoire
pharmacie.
C'est-à-dire que vous avez des médicaments. Hein. Sauf que ce n'est pas des vrais médicaments. C'est-à-dire que vous avez quelque chose comme 6000 petites pilules, gélules les unes que les autres. Toutes ont été faites une à une. Peintes une à une à la main, dans de la céramique, du plastique, etc. Hein? Chaque médicament est en fait un faux médicament aligné sur ces étagères.
Hallucinogène ou
pas ? Ah, peut-être, hallucinogène parfois. Hein? Peut-être, effectivement. C'est de qui ça ?
Peut-être un peu celui qui a fait la toile avec tous les.
Celui qui a fait la toile avec les petits points tout à l'heure. Le japonais. Notre mangaka, je crois. Hein? Un japonais non coloré. Bah, en fait, quand on regarde de près, c'est très très coloré. De loin, évidemment, c'est un peu plus. Murakami, ça représente quoi ?
Une souris.
Mickey, Donald ?
Mini, c'est Mini. Là.
Oh, c'est un panda. Un panda. Il est posé sur quoi ?
Sur une malle.
Une malle. Il est posé sur une malle. C'est grandeur nature. Hein. Et voilà. Sans mieux, hein ? Peut-être pas pour longtemps. Alors, on y va ?
Oui.
On y va. On recommence. Donc ça, on avait dit ?
L'Italien.
Catalan ?
Oui.
Tout le monde est OK ?
Oui.
Monsieur Catalan ?
Oui, oui. Non, c'est pas lui.
C'est pas vrai.
C'est Catalan.
Ah, ouais, bravo.
Vous êtes très fort.
On est fort.
Lui aussi.
Ariane avec notre bouboule.
Catalan aussi.
Catalan peut-être aussi.
Non.
Ah, il y avait des dissensions tout à l'heure.
Oui, oui, ouais. Moi je sais pas.
Il y avait les tenants de Catalan,
oui,
disant plus, tiens, météorite, etc.
Voilà.
Hein, on avait parlé de ça.
Non, non.
Quels autres noms avaient été prononcés aussi?
Kuntz.
Jeff Kuntz. Oui. Donc oui. Celui de Michael Jackson de tout à l'heure. Hein. Donc un Kuntz soft, si j'ose dire. Hein.
Non.
Kuntz Catalan, c'est ça le deal? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient d'autres gens?
Non.
Non. Kuntz ou Catalan? Ça résume la situation? Eh bien, c'est Kuntz. Bravo. Il a réalisé toute une série de pièces comme ça. Par exemple, celle-ci, aussi. Avec toujours la même idée. Hein. On prend un moulage d'une sculpture classique, là c'est une sculpture du XVIIIe siècle, hein, et on agite cette boule qui est un peu l'extrême inverse d'une certaine manière. Hein. C'est coloré, ça envoie de la lumière, c'est une forme, j'allais dire, banalisée, alors que la sculpture est au contraire très contournée, chargée d'histoire, etc. Il y a organisé des idées du monde, effectivement, enfin bref. Donc il a fait toute une série de pièces comme ça. À chaque fois, d'ailleurs, il s'agit d'un ballon, hein, enfin, ou la représentation d'un ballon. Hein, parce que ce n'est pas un ballon, c'est une pièce de verre, hein, mais qui évoque l'idée d'un ballon. Comme si un ballon s'était égaré malicieusement sur une sculpture antique. Ah ! Alors là. Là, vous aviez dit Murakami, hein, très japonais, etc. Très, hein. Pardon ? Donc japonais. Takashi Murakami. C'est Damien Hirst.
Ah bon ?
Notre diamantaire, hein, c'est une œuvre de Damien Hirst. Pas trop, hein, 2007. Hein. Quand on voit, les artistes sont étonnants, ils peuvent faire des choses diamétralement opposées. Hein. Là, on a une œuvre vraiment faite avec de la peinture sur la toile. Eh bien, c'est de Hirst. Kuntz.
Oui.
Certains avaient dit Murakami, non?
Oui.
Kuntz. Kuntz ou Murakami? Mais ça penche pas mal du côté de Kuntz, j'ai l'impression. Vous avez raison, c'est de Jeff Kuntz. Donc il a fait comme ça toute une série d'œuvres qui évoquent des ballons, mais qui sont en acier. Vous avez peut-être vu cet énorme chien là.
Il le
vend
à la flag.
Absolument, oui, oui.
Pour 10 euros.
Alors, peut-être pas l'original. Ça mesure 5 mètres de haut à peu près, enfin, vous voyez à peu près la taille. Hein. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Jeff Kuntz, un autre chien monumental qui est celui-là. Ce que je vous montre là, je ne l'ai pas mis, hein, mais c'est à l'entrée du musée Guggenheim de Bilbao.
Ah, bah oui.
Vous savez, le Guggenheim à Bilbao. Il y a à l'entrée cet énorme chien de Jeff Kuntz aussi, qui est couvert de fleurs. Hein, c'est toujours un chien énorme couvert de fleurs. C'est une sculpture topiaire, en au sens. Hein. Kuntz, il a fait comme ça plein de faux ballons, notamment toute une série de tulipes ballons. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais il vient de donner à la ville de Paris, hein, vous avez entendu ça, hein, une sculpture qui représente justement un bras qui sort du sol et qui tient des tulipes. Tout à fait dans ce style-là, qui est un hommage aux vitrines aux victimes des attentats qui ont lieu à Paris l'an passé. Il a fait également ça, qui est un Popeye, qui rappelle toujours le plastique, sauf que c'est en acier. Alors là, japonais. Hein, Takashi Murakami, pas de problème, c'est lui, et c'est lui. Bravo. J'avoue que j'avais enlevé dans la légende Chinese Lions, que je me suis dit, entre les caractères et ça, ils sont vraiment... Mais vous avez été... J'ai pourtant tout fait pour essayer de vous dissuader. Maintenant, vous avez trouvé que c'était lui.
Qu'est-ce que ça veut dire, skull?
Squelette. Crâne. Enfin, c'est crâne, quoi. Hein? Skull, mais squelette. Hein? Pony, c'est les pivoines. Hein? Et Fontaines, il y a, vous voyez, des jetons. Il a fait comme ça toute une série de peintures. Hein, voilà une autre. Hein. Par parenthèse, est-ce que vous reconnaissez...
Oui, oui.
Louis Vuitton. Murakami est en effet en contrat avec Vuitton. Et vous avez tout à l'heure, on a vu un panda sur une malle. C'est une malle Vuitton. Hein. Parce qu'il fait des dessins pour Vuitton, pour des papiers peints, des machins, des trucs. Voilà, oui, mais il y a un côté papier peint. Ouais. Ah, alors celui-là, notre scotché, là. C'est qui ça? Meug. Donc c'est Rand Meug, celui de la dame au livre tout à l'heure, on est d'accord, hein? C'est Catalan. Certains l'avaient dit tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est de Marozio Catalan. Hein. L'histoire dit, je pense que c'est vrai, mais je ne connais pas Marozio Catalan, que, en fait, ce que vous avez là, c'est le portrait de son premier galeriste. Et son premier galeriste, il a fait une entourloupe. En gros, il a vendu une œuvre. Il était tellement pas content. Parce que Catalan, c'est un ragazzi. Hein. C'est un type qui vient d'une famille très, très modeste de Padoue. C'est pas du tout un type... Voilà. Et donc, je veux dire que quand il veut, il est sanguin. Hein. Et alors, il a planté son galeriste en sculpture hein, sur le mur, il a scotché. Donc ça, c'est très lui. Hein. Il y a un côté comme ça, il réagit. Hein. Alors ça, vous aviez dit Catalan aussi, d'ailleurs, tout à l'heure. Hein. C'est Ron. C'est Rand Meug. Hein. D'ailleurs, vous aviez bien trouvé que c'était des sculptures très petites. Hein. En effet, ça fait ça de haut. C'est donc c'est des espèces de miniatures. Hein. Donc chez Meug, il y a, appelons-le comme ça, hein, il y a toujours ce rapport à la taille. Quoi. C'est vraiment ce qui fait que c'est des sculptures extrêmement dérangeantes. C'est trop grand, c'est trop petit. Tout est pareil que dans la réalité. C'est super vrai. Mais ce qui est dérangeant, c'est la taille. Tout est vrai sauf la taille. Et ça crée une espèce de...
malaise.
Le malaise, de surprise, vous disiez tout à l'heure, qui est étonnant. Là, vous avez d'ailleurs un rapport entre la sculpture et une dame, hein, mais vous l'aviez fait avec le sol. Voilà, là aussi, vous voyez une sculpture basante de... j'aime beaucoup le Spooning Couple, deux personnages qui s'enlacent, enfin. C'est tout petit, hein, ça fait ça de grandeur. Hein, et vous avez les gens tout autour qui regardent cette toute petite pièce, hein, qui est minuscule, mais également hyper réaliste. Si j'avais pas mis ça, on croirait vraiment une réalité. La taille montre que non. Ah ! Là, on était du côté de Damien Hirst, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Hein, précieux, c'est en argent, tout ça. Ça a beau être coupé d'un peu de cuivre, ça vaut quand même de l'argent. C'est grandeur nature. Hein. Sauf que c'est de Takashi Murakami. D'ailleurs, ça s'appelle Oval Bouddha. Tout à l'heure, j'avais enlevé Bouddha, j'avais mis God. Parce que je me suis dit, si je mets Bouddha, c'est clair, tout, je me trouve tout de suite. Voilà. Donc je me suis dit, je vais mettre un peu de difficulté. Et ben voilà. Ah, ben je suis un peu retort. Hein. Vous étiez piégé. Rome. C'est Rome. Rome Meuk, c'est lui. Alors c'est tout petit. Hein. Là aussi, vous voyez, hein, un monsieur qui a droit de voir la photo, c'est vraiment une petite pièce haute comme ça. Hein. Mais très, très hyper réaliste, voilà, de près. C'est incroyable. C'est sidérant. Il n'y a pas plus hyperréaliste que Rand Meug. C'est stupéfiant. Là, vous aviez dit Takashi Murakami, très Ulysse KO2, hein, très manga, très tout ça. Hein. Sauf que c'est Jeff Koons. Certains avaient dit, je
peux oui, oui,
c'est Koons. La voilà retournée, hein. Vous voyez une pin-up des années 60, avec une choucroute insensée.
C'est une sirène.
Voilà, oui, c'est sans doute... Alors, en fait, c'est une robe hein, qu'elle a là. Hein. Mais sirène ou pin-up, ça revient au même, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et elle... c'est en porcelaine aussi. Hein. En fait, il s'intéresse beaucoup aux fabriques de porcelaine européennes, soit allemande, bavaroise, soit italienne. Et voilà. Il a fait plein de choses comme ça, hein. Voilà une autre porcelaine qu'il a fait. Vous voyez, avec des petits angelots qui entourent non pas un petit mouton, mais un gros cochon. Hein. Ah. Alors, nos vitraux. Votre dernier prix, c'est quoi? Hirst. Bravo. C'est de Damien Hirst.
Et Rod,
bravo, parce que vous avez trouvé ce que c'était.
Papillon sur toile.
Voilà un détail. C'est une mosaïque de papillons. Il a fallu 10 000 papillons. Ça pose d'ailleurs des problèmes avec les sociétés de protection de la nature.
C'est haut quand même.
Oui, c'est les vitraux là, ils font 2 mètres de haut, quoi. À peu près. Oui, c'est très haut. Oui, donc il y a beaucoup, beaucoup de papillons.
Mais oui,
et comment c'est coulé ?
Alors je ne sais pas, je me demande. Parce que, alors, cela dit, le fait de faire des tableaux en papillon est une vieille chose.
Oui.
Je me rappelle que, enfin, vous avez peut-être déjà vu, hein, d'ailleurs, des entomologistes, quelquefois, ont fait des.
Il y a la soudure en ossoie.
Alors, c'est amusant ce que vous dites, parce que l'œuvre qui est à soudure en ossoie, c'est moi qui l'ai achetée.
Ah.
Il y a soudure en ossoie, au musée de soudure en ossoie, il y a une collection de ceinture tout à fait extraordinaire, et j'avais acquis, enfin, c'est moi qui l'ai achetée. Je l'ai acquis pour la ville, oui, de soudure en ossoie, c'est pas moi qui l'ai achetée, mais mes propres lignes. Hein. Mais j'avais acquis, quand j'étais conservateur du musée d'Autun et de soudure en ossoie, cette œuvre qui est passée en vente à Besançon, et qui est un tableau fait avec des papillons collés, justement. Hein. Au XIXe siècle, hein, c'est une œuvre des alentours de 1850-60. Donc c'est en fait une vieille tradition, mais que Hearst a remis en scène, hein, pour faire ce genre de truc.
Chez les Incas, il y en avait beaucoup.
C'est pas plutôt en plume ?
En plume, oui, pardon.
En plume. Hein. C'était la grande... effectivement, en Amérique du Sud, au Pérou, mais aussi au Mexique. Hein. On a des mosaïques de plumes, tout à fait. C'est absolument extraordinaire, c'est vrai. Vous aviez trouvé, c'est Ron, hein. Voilà. Donc œuvre tout à fait étonnante. Il nous en a fait plusieurs. Il y a celle-là aussi. C'est pareil, ça fait 2 mètres de haut. Hein. Il n'est pas commode. Hein. Voilà. Et ça, Murakami, hein. Takashi Murakami. Vous êtes tous d'accord. Bon, vous avez raison, parce que c'est lui. Voilà. Alors, il a fait d'autres choses comme ça, hein, par exemple ça, vous voyez, qui évoque le monde un peu de l'enfance, des jouets en plastique, etc.
Hein,
d'autoroute. Ouais. Ah, ça, là, vous n'étiez pas tous d'accord. Hein. Alors, c'est qui ça ? C'est la femme de ménage qui est. Catalane ?
Oui.
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, Catella, il a fait des tas d'œuvres assez marrantes comme ça. Hein. Voilà une autre œuvre de lui. Alors là, il faut avoir un appartement et pas peur de l'abîmer parce que, comme vous voyez, là, il faut carrément percer le sol. Et puis, il faut que vous ayez une pièce en dessous. Parce que vous avez le bonhomme qui pend la pièce en dessous. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, il faut. Je vous le dis parce que ça vous intéresse. Mais alors, chose amusante aussi, c'est lui. C'est un autoportrait. Alors aujourd'hui, il a les cheveux blancs, mais à l'époque, il ne les avait pas. Et donc, c'est lui. C'est-à-dire qu'il aime bien aussi se mettre en scène lui-même. Hein. Il est très... il y a un côté comme ça, un peu satirique, mais auto-satirique aussi. C'est lui qui a fait ça aussi, que je trouve très marrant. C'est des tout petits ascenseurs. Et des vrais... Je vous montre une autre vue, là. À l'intérieur, c'est comme un vrai ascenseur, sauf que c'est miniature. Et ça fait ding, même, quand ça arrive. Hein. Parce que vous appuyez sur le bouton, ding, ça ouvre les portes, etc. C'est un mini ascenseur.
C'est un monte plat.
Pardon ?
Un monte plat.
Ben oui, sauf qu'il faut un petit plat. Hein. Pour mettre un radis, ça peut aller, mais il faut bien quelque chose en coup. Hein. Voilà. C'est des mini ascenseurs. Donc, c'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui travaille dans ces espèces de monde onirique, satirique, onirique, ce qui est très, très marrant. Il a fait également ça, que je trouve assez fort. Vous aurez compris que j'aime beaucoup cet artiste, pour ma part. Hein. Et qui a présenté, on a fait Pinocchio, c'est un Italien. Hein. Donc, Pinocchio. Mais il a fait Pinocchio qui vogue comme ça, la tête en bas, dans une espèce de bain. Hein, enfin, voilà.
Pourquoi Daddy,
à mon avis, c'est parce que, vous savez, Pinocchio, il demande toujours à son... il a son père, hein, Geppetto, hein, qui l'a réalisé. Il y a plusieurs moments où, dans les gens de Pinocchio, il appelle son père parce qu'il va tomber dans l'eau, etc. Hein. Donc là, à mon avis, il appelle Daddy, il est pour pas se noyer. Je pense que c'est ça. Ah, et ça ? C'est qui, ça ? Ah, c'est Coton. Enfin, c'est de la pâte à modeler, mais elle est coton.
Murakami.
C'est Kunz. Mais c'est vrai que c'est un côté murakamien. Hein. Ah ! Notre veau d'or. Hearst. Hein. C'est Damien Hearst. Alors, il a fait toute une série d'animaux, dont du formol. Hein. Par exemple, alors, voilà le voilà de face. Hein. Une fois, vous le voyez mieux. Hein. D'accord ? Hein. Œuvre assez forte, hein. Mais il a fait ça aussi, un requin. Ça fait 4 mètres de long, hein. Un requin dans du formol. Il a fait d'autres œuvres également. Il a fait beaucoup d'animaux dans du formol, hein. Il a fait une œuvre également très étrange qui représente, qui s'appelle Mother and Child, donc mère et fils, on va dire, divisé parce qu'il les a coupés en deux et mis chaque monnaie dans une vitrine. Vous voyez qu'il y a deux vitrines.
Oui.
La vache et son lit ont été coupés en deux. Et il y a une moitié dans chaque. Voilà. Vous voyez mieux comme ça. Hein. Voilà. Là, vous avez une moitié et là, l'autre. Vous pouvez passer entre les deux, vous voyez l'intérieur du corps des animaux. C'est très spécial.
Ça va se garder combien?
Eh bien, ça se décompose petit à petit. Ça fait partie du truc. Donc, si vous achetez ça, sachez que dans quelques années, ce sera moins en forme. Hein. Même si le formol, ça, quand on a des animaux. Je pense à ce mur en ossoie. Moi, je me suis occupé de beaucoup d'animaux dans du formol. Hein. Ça peut conserver pendant les collections de ce mur en ossoie. On les a depuis un siècle et demi, deux siècles. Hein. Et les animaux sont toujours là. Hein. Donc. Ah! Ça, c'est qui, ça? Rome. Eh bien, c'est Maurizio Cattelan. Cattelan, il a fait des tas d'œuvres comme ça, assez graves aussi. Il y en a une que je trouve, pour ma part, terrible, c'est celle-là. C'est une œuvre qui s'appelle Him, lui. C'est une œuvre que, quand vous entrez dans une salle, vous voyez ça. Donc, vous voyez... Un personnage un peu petit, il l'a fait un petit peu plus petit que d'un normal. Hein. Petit, on vous dit, oh, tiens, il y a un enfant agenouillé, etc. Et quand vous passez devant pour voir, tac, c'est Hitler. Moi, je trouve que c'est une œuvre d'une force terrible et qui met mal à l'aise, mais qui imprime dans celui qui la regarde exactement ce qu'est le personnage.
Alors, oui, donc, parce que nous savons.
Oui.
Mais dans une génération ou deux.
Ah ben, peut-être, absolument. Mais c'est vraiment une œuvre qui a une espèce de force comme ça dans sa mise en scène aussi, hein, qui est quand même très grande. Alors ça, vous aviez trouvé. Hein, c'est Ron. Hein, voilà. Je vous montre un... Alors là aussi, c'est petit. Tout petit. Comme nos deux dames de tout à l'heure. Et je vous montre un détail. Voilà. C'est incroyable. Hein. Les jeux sont des vrais cheveux. Enfin, c'est sidérant. Sidérant de réalité. Ah ben oui, là j'ai mis directement. Oh ben là, j'ai oublié de faire la... Oh, c'est pas drôle. Bon, attends. Voilà. Mais certains d'entre vous avaient trouvé tout à l'heure, avaient dit que ça leur rappelait le tableau avec les petits points.
Oui. Ah, mais
et effectivement, voilà. Donc ces pilules ont toutes été faites à la main. Hein. C'est pas des vraies pilules.
Mais il y a un miroir en plus.
Ah oui, il y a un miroir derrière pour démultiplier le nombre de pilules.
Et dessous aussi.
Oui.
Oui.
Et ça, c'est le dernier que vous aviez trouvé, c'est Takeshi Murakami. Oui, alors je vais vous montrer, c'est que Takeshi Murakami, il a fait des tas de figures comme ça, plus ou moins liées au manga, aux traditions japonaises, notamment Kaikaikiki, qui sont ces deux personnages que vous voyez là, en plastique, bien sûr. Dernière petite chose, on a bien dépassé l'heure, mais je voulais simplement vous demander, à votre avis, tous ces artistes qu'on a vus aujourd'hui, si vous aviez à les mettre dans la postérité d'un artiste du XXe siècle, vous diriez qui?
Non.
Alors, tous ces artistes-là, Cattelan, Kuntz, etc., tous ces cinq, si vous aviez à les mettre, tous les cinq, hein, dans la postérité d'un artiste du siècle d'avant, du XXe siècle, à votre avis, ce serait qui? Qu'est-ce que vous choisiriez comme...
Père.
Comme père, en quelque sorte, oui, de ces artistes-là.
Dali,
oui. Dali, c'est vraiment un peintre. Hein. Sculpteur aussi. Mais, et puis surréaliste.
Oui.
Miro.
Miro.
Alors, on pourrait trouver dans un certain nombre de peintres, hein, ou d'artistes. Miro, oui. Dali, je vois bien ce que vous voulez dire par rapport au côté à des formations, à certains fantastiques, etc. Oui. Nikita Saint-Phal, effectivement, parce que on a de la résine, de la couleur, on peut penser à Murakami.
Des
hein.
Détails
énormes. Oui. Moi, je penserais à quelqu'un d'autre. Celui qui a fait ça.
Warhol.
Celui qui a fait ça. Celui qui a fait ça. Et ça. Et ça.
Ben ça, c'est...
Effectivement, c'est Andy Warhol.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est là devant toute une série d'artistes qui, au XXIe siècle... Alors, les références que vous avez dites sont pas mal. Hein. Simplement, je pense que c'est quand même plutôt... Tous ces artistes, on les appelle généralement des néo-pop-art. Vous savez que Warhol, c'est le pape du pop-art. Il n'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres. Rosenstein, Rosenquist, etc. Oldenburg, il y en a plein. Mais quand même, la figure de proue, pourrait-on dire, pour aller vite du pop-art, et américain, parce que c'est aussi le pop-art européen, c'est quand même Andy Warhol. Et Warhol, et c'est pas le seul, puis rien n'est aussi simple, est un peu quelque part une sorte de figure tutélaire dans l'art moderne de ce qui se passe avec ces néo-pop que sont ceux dont on a parlé aujourd'hui. Voilà.
Bravo.
Eh bien, c'est sûr, ce bravo à vous que vous avez été. Vous avez été d'une...
Vous ne direz pas que le réveillon est si proche. Hein. Vraiment.